Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonsresources.gouv.fr/collectivité.
Un grand bonsoir à toutes et à tous. Il est 20h pile en ce jeudi soir et je suis très heureux de vous retrouver. On est en direct à la radio, à la télé, 20h, 22h. Peut-être êtes-vous confortablement installé dans votre voiture, peut-être dans les embouteillages ce soir. Hein. Ça risque d'être le cas. Eh bien voilà, montez le son, c'est Tech & Co. 2 heures de tech, toute l'actu tech chaque soir, 20h, 22h chez nous. Avec au menu ce soir dans Tech & Co, on va parler pas mal d'espace avec un projet incroyable, une voile solaire déployée par Gamma. Une start-up qui lance ça, on en parlera dans quelques instants. Et puis SpaceX a lancé aussi 2 satellites français de Kineis et de Loft Orbital. C'était le 3 janvier dernier. On va vous expliquer à quoi vont servir ces satellites. Et puis comme nous sommes jeudi soir, eh bien une heure pour revenir sur toute l'actualité de la semaine avec nos experts. Ce sera le grand débrief de l'actu tech. Voilà, vous restez avec nous, eh bien vous faites bien. Bienvenue dans Tech & Co. On est là jusqu'à 22h comme chaque soir.
Tech & Co, le grand live du numérique avec François Sorel.
Et en ce jeudi soir, l'actu tech, c'est avec Frédéric Simotel. Bonsoir Frédéric.
Bonsoir François.
Et comme souvent chaque jeudi, on va passer un bon moment ensemble puisque ça va être le JT de la tech tout de suite. Et puis tu reviendras à 21h pour débriefer justement toutes les news tech de cette semaine. Il y en a quand même pas mal avec Asma Mala ce soir. Il y aura aussi Salim qui sera avec nous et Julien Villeray, donc du beau monde. Mais pour débuter donc l'actu de ce jour avec WhatsApp qui se fait taper sur les doigts, sanctionné pour violation du règlement européen sur la protection des données.
Mais alors, petite amende, enfin tout est relatif, mais par rapport aux chiffres d'affaires, c'est 5,5 millions d'euros pour non-respect de la réglementation européenne sur les données. Alors, c'est la commission irlandaise qui a rendu cette sanction, c'est la DPC. Alors, elle agit quand même à un niveau européen, mais si, donc c'est autour, tout ce qui est autour du RGPD, c'est encore le consentement qui n'a pas été respecté, etc. Mais si on commence à regarder, c'est quand même un nouveau coup sur les doigts de qui ? De Meta. Ben oui, WhatsApp, ça appartient à Meta. Alors, si je fais un petit décompte, il y a 5 mois, donc, cette même commission irlandaise pour la protection des données avait eu la main plus lourde. 225 millions d'euros d'amende pour Meta. Et,
oui.
Et puis le 4 janvier dernier, eh bien c'est 390 millions d'euros, toujours pour des entorses au RGPD. Et donc cette fois, c'est, alors ce sont les articles 6, 12, 13 du RGPD. Concrètement, quand l'utilisateur dit je consens pour bénéficier des dernières mises à jour, eh bien là, il y a des dispositifs de sécurité qui se mettent en place. Mais ça ressemble un peu à un accord forcé pour qu'on puisse utiliser ces données. Et donc là, la sanction est tombée.
Alors ça commence à faire beaucoup, hein, si on fait le cumul de toutes ces amendes. Hein.
Oui, alors dans un communiqué, Meta a fait savoir qu'il allait faire appel quand même.
D'accord.
De tout ça, parce qu'il estime que WhatsApp a toujours été très soucieux de la protection des utilisateurs. C'est vrai, les données sont chiffrées. Hein. WhatsApp, ce sont des communications chiffrées. Il a dit notre service opère à toutes les garanties techniques. Donc même s'il y a des données personnelles qui circulent, elles sont chiffrées. Oui. Elles ne vont que du destinateur que de l'expéditeur à son destinataire. C'est une responsabilité. Donc on va voir comment tout ça sera traité, mais on sent quand même qu'il y a vraiment une volonté des organismes de régulation européens pour appliquer très, on l'avait dit, le RGPD, ça commence à tomber, ça peut aller jusqu'à 4% du chiffre d'affaires annuel. Et bien là, ça y est, on y est. Donc violation du règlement européen pour la protection des données pour WhatsApp.
Si vous êtes avec nous à la télé, on va vous montrer des images maintenant impressionnantes d'un robot Boston Dynamics. Vous savez, ces robots qui, à chaque fois, nous subjuguent de part, et nous mettent dans un sentiment de malaise. À la fois, on est émerveillé par la technologie, et puis, parfois, le mimétisme de ces robots fait un peu peur. Eh bien, voilà, là, Boston Dynamics a publié aujourd'hui une nouvelle vidéo d'Atlas, qui est son nouveau robot.
Et son robot humanoïde, hein, on se souvient de lui, il faisait des saltos arrière. Là, on le voit monte dans un environnement de chantier, c'est-à-dire qu'il est sur des échafaudages, il grimpe dans les échafaudages, il y a un ouvrier qui est là avec lui et donc il va l'aider à porter des sacs, à tirer des câbles, à tirer sur une corde pour faire monter des seaux de ciment, on imagine, au bout d'une poulie. Et puis, quand il va avoir terminé, hop, il fera son petit salto arrière pour redescendre de l'échafaudage. Mais il y a surtout ce qui est, au-delà de l'agilité du robot, mais ça on s'y était habitué, c'est vraiment le côté, il va saisir des choses avec ses ses doigts.
Alors c'est des pinces en fait.
Pour l'instant, ce sont juste des pinces, mais on peut imaginer la version suivante avec des outils, hein, puisque là, c'est des pinces, mais on peut très bien enlever la main et mettre un outil, un fer à souder, des tournevis de toute taille. Donc, on voit vraiment le futur de ces robots. Alors, Boston Dynamics, aujourd'hui, c'est à 80% Hyundai, hein, et puis 20% encore SoftBank. Donc, il y a tout un tas d'autres missions qui vont arriver. Ce sont encore des machines qui coûtent assez cher, hein. On est au-delà des 80, 100 000 dollars l'unité. Mais voilà, peu à peu, on voit que Boston Dynamics avance. Alors, il y a toujours la question que l'on se pose, c'est la question de l'autonomie et la question, voilà, de tous ces rouages. Alors, il y a beaucoup d'électronique à l'intérieur. Ça chauffe beaucoup. Donc, comment tout ça est refroidi là-dessus? Parce que on l'a jamais vu fonctionner dans un long.
C'est toujours des vidéos très courtes.
C'est toujours des petites vidéos très courtes.
Mais après, c'est des démos technologiques, voilà, ces vidéos.
Ça sert de démo. Le but n'est pas de le vendre tout de suite sur les chantiers, mais ça apporte quand même. Et puis, c'est surtout, ça montre l'agilité, l'équilibre. Et puis, c'est parfois des parties du robot, c'est-à-dire le bras articulé. Peut-être qu'on verra que ce bras articulé, c'est l'équilibre, parce que vous savez que nous, quand on marche, c'est une performance. Chaque jour, notre équilibre compense. Les robots, quand vous les lancez une première fois, ils tombent tout le temps.
C'est incroyable. Si vous êtes avec nous à la télé, on est en train de vous montrer sa vidéo. On a l'impression que c'est un humain déguisé en robot.
Ah oui.
Tellement, en fait, la fluidité. Il a un mimétisme. C'est incroyable.
Le MIT a déjà récupéré certaines des parties de ce robot, notamment pour la partie, je vais appeler ça des bottes, pour bien comprendre, mais pour les personnes qui ont des soucis de marche. Et ils ont fait des choses qui s'adaptent en dessous du genou, qui va s'installer sur le mollet, qui va récupérer le talon, et qui vont aider les gens qui ont des soucis de marche à garder l'équilibre. Donc on voit, voilà, par petits bouts, bien en avance aussi, il y a plein de développements qui sont tirés de ces expériences.
On va parler de médiamétrie. Vous savez qu'il y a cet organisme qui arrive à mesurer précisément l'audience de beaucoup de médias. Hein. Alors, ça a commencé par la radio, la télé, après Internet, et médiamétrie s'intéresse maintenant aux plateformes de streaming, Fred.
Exactement. Oui, ils aimeraient, d'ici sur les deux prochaines années, pouvoir comptabiliser aussi le nombre de vidéos vues sur Netflix, sur Disney+, sur Amazon Prime. Aujourd'hui, c'est quand même près de 9 millions d'utilisateurs quotidiens dans l'Hexagone. C'est plus 50% par rapport à 2019. Alors, oui, il y a de plus en plus de streaming, mais bon, la télévision, c'est encore 43 millions de téléspectateurs chaque jour. On est devant notre télé 3h. On était devant notre télé 3h26 en 2022 contre 3h50 en 2012. Donc ça baisse un peu parce que derrière, on fait quoi? On fait du jeu vidéo, on est devant son mobile, on fait d'autres choses. On est ce qu'on appelle les usages complémentaires. Mais on reste quand même beaucoup devant notre télé, à consommer de la télé traditionnelle, mais à consommer aussi beaucoup de ces plateformes. Donc Médiamétrie est en train de. Alors, ils l'ont dit, on est en train de préparer l'évolution de nos systèmes, parce qu'évidemment, derrière tout ça, c'est de la technologie. La collaboration s'annonce pas aussi facile que ça avec les Netflix et Amazon.
Oui, parce que je pense qu'ils n'ont pas envie d'ouvrir comme ça le coffre-fort de leur data.
De leur audience.
Ils sont pas très transparents d'ailleurs. Netflix, depuis quelques mois, propose quand même un classement d'audience de ces produits les plus vus, mais on n'a pas beaucoup d'informations.
Non, et puis on commençait qu'ils ont déjà une offre avec de la publicité, tout ça est revendu, on a entendu que dans le domaine du streaming musical, il y a des robots qui viennent écouter des musiques. La fraude, il va pas y avoir beaucoup de fraude, mais c'est toujours des chiffres qu'on a du mal à donner parce que quand Netflix annonce plus de 100 000, son action elle augmente. Quand elle annonce moins 100 000, l'action elle descend. Donc si Médiamétrie arrive chaque mois à donner des mesures d'audience, ça pourra pâtir sur le chiffre.
Mais après, d'un côté, aujourd'hui Netflix et Disney+ s'ouvrent à la publicité, donc forcément ils vont avoir besoin d'un chiffre objectif, en quelque sorte.
Mesure d'audience transparente, indépendante, et Médiamétrie est capable de leur proposer ce genre d'outils.
Saviez-vous que lorsque vous surfez sur Internet et que vous faites une requête sur Google ou que vous regardez une vidéo sur YouTube, alors forcément vous consommez d'électricité, mais vous consommez aussi de l'eau, Fred?
Oui. Alors de l'eau, Google était très. On dénonçait beaucoup Google, notamment pour ses data centers à travers le monde, tous les exploitants de data centers, mais notamment Google pour leur consommation d'eau. Puis Google était toujours un peu réticent à donner tout ça. Et puis alors ils étaient très attaqués en disant la consommation d'eau de Google représente plus d'un quart. Un quart de toute l'eau utilisée dans la ville quand ils avaient un data center implanté, donc ils étaient très décriés dans ce domaine. Et là, Google a décidé d'être un peu plus transparent. Donc les data centers de Google, on l'apprend, consomment 15 milliards quand même, hein, 15 milliards de litres d'eau chaque année. Alors c'est l'empreinte d'eau de 22 terrains de golf, hein, par exemple, si on regarde par rapport des terrains de golf aux États-Unis. Alors cette eau, elle est quoi? Ben évidemment, vous l'avez compris, c'est surtout pour refroidir, hein, principalement les data centers et les serveurs, hein, qui chauffent beaucoup. Mais enfin, derrière cette consommation d'eau indirecte, il faut aussi voir tout ce qui est consommation d'eau indirecte, c'est les centrales électriques, hein, qui amènent tout ça, qui consomment de l'eau. La construction des serveurs, ça aussi, c'est de l'eau. Tout ça n'est pas compté, mais quand même.
Silicium, pour fabriquer du silicium, enfin, les on va dire les cartes mères avec, donc, vous le savez, toutes ces plaques où sont
exactement
fixées toutes les puces, ça consomme énormément
là,
d'eau.
Là, on est vraiment sur l'efficacité, sur l'utilisation de l'eau, et on calcule ce coefficient d'efficacité d'utilisation de l'eau, enfin, cette mesure d'efficacité d'utilisation de l'eau. Et là-dessus, Google est plutôt, alors, selon des experts indépendants, c'est 1,1 litre par kilowattheure d'utilisation d'énergie. Autrement dit, Google est plutôt au-dessus de la, enfin, du bon côté de la moyenne,
d'accord,
par rapport à d'autres data centers, qui la moyenne de l'industrie américaine, c'est 1,8 litres d'eau par kilowattheure. Bon, Google est à 1,1. Bon, il y a encore beaucoup de travaux à faire. Sachez quand même que c'est le data center de Council Bluffs dans l'Iowa qui consomme le plus, 3 milliards de litres d'eau par an. Dans l'Oklahoma, il y en a un autre, 2,5 milliards d'eau. Donc voilà, ça fait quand même beaucoup.
Et qu'est-ce que fait cette eau après? Elle est jetée? Elle est recyclée?
Elle est refroidie, elle est recyclée. Ouais. Alors, quand on arrive à avoir des circuits fermés, elle est refroidie la nuit, et puis elle repart. Et puis on sait que l'eau, c'est pas de l'eau glacée. On peut avoir de l'eau qui peut être à entre 21 et 24 degrés.
Et puis il y a l'évaporation aussi, forcément, puisqu'elle chauffe. Merci Fred. On se retrouve dans moins d'une heure, dans 45 minutes, pour le grand débrief de l'Actu Tech, comme chaque jeudi soir. Et vous restez avec nous dans un instant. On va s'intéresser au spatial avec mon invité, le cofondateur de Gamma. Et on va vous parler de cette mission de voile solaire. Un projet fascinant que je vous fais découvrir dans un instant dans Tech & Co sur BFM Business. À tout de suite.
Tech & Co, le grand live du numérique avec François Sorel.
Le retour de Tech & Co sur BFM Business. Tout à l'heure, je recevrai le fondateur d'une boîte incroyable dans le domaine de l'espace, hein, le président de Kineis, Alexandre Tisserand, et aussi le directeur de l'équipe radiofréquence et traitement du signal chez Loft Orbital. Et en fait, ces deux invités qu'on retrouvera un petit peu plus tard dans la soirée ont un point commun avec l'invité que j'accueille tout de suite sur le plateau de Tech & Co, Louis de Gouillon-Matignon. Bonsoir, Louis.
Bonsoir, monsieur.
Monsieur Louis, franchement, non, mais c'est pas possible. Appelez-moi François.
Bonsoir François.
Bon, non, mais parce que d'un coup, un, ça me vieillit, puis deux, j'ai l'impression d'être... Voilà, non, François. Et je disais, donc, le point commun que vous avez avec les deux invités que j'aurai un petit peu plus tard, c'est une fusée, votre point commun. C'est SpaceX qui a décollé le 3 janvier dernier, et en fait, vos trois projets, ont décollé en même temps. C'est ça qui est assez intéressant. On se rend compte aujourd'hui de la puissance de SpaceX qui arrive à faire décoller énormément de satellites et plein de choses en même temps, en fait. Et notamment, votre voile, c'est ça qui est intéressant, votre voile solaire qui s'appelle Gamma Alpha. Présentez-nous un peu ce projet, s'il vous plaît, Louis. De quoi s'agit-il ?
Le projet Gamma, c'est révolutionner le transport spatial sur longue distance grâce à ce qu'on appelle la voile solaire. La voile solaire, c'est une espèce de super grande surface qui est déployée dans l'espace et qui va venir réfléchir la lumière comme un miroir. C'est un miroir ultra fin. On parle de 2,5 microns d'épaisseur, c'est-à-dire 50 fois la finesse d'un cheveu. Et cette lumière va venir rebondir et en rebondissant, va imprimer à l'ensemble de l'objet spatial, n'est-ce pas, une accélération. Et cette accélération, on s'en sert pour transporter nos charges nos instruments scientifiques d'un point A à un point B. C'est ça le projet Gamma.
Donc en fait, vous êtes en train de réinventer la propulsion spatiale, si j'ai bien compris.
Pour longue distance, pour ce qu'on appelle les nanosatellites, c'est-à-dire que depuis quelques années, on connaît une révolution dans le monde de l'aérospatiale, on va miniaturiser les satellites. Aujourd'hui, on envoie des satellites qui pèsent 10, 15, 20 kg, qui font la taille d'une boîte à chaussures, d'un micro-ondes, ce qui n'était pas le cas il y a 20 ou 30 ans. Et grâce à cette technologie de voile solaire, grâce à cette espèce de gigantesque couverture de survie qu'on déploie dans l'espace, on arrive à pousser nos charges utiles et à, in fine, révolutionner le transport spatial, à réinventer la propulsion sur très longue distance. On n'a absolument aucune espèce d'intérêt en orbite basse, c'est-à-dire à l'altitude ISS, là où séjourne Thomas Pesquet, à près de 500 km d'altitude. Nous, on devient intéressant quand on veut aller vers Mars, vers Vénus, vers des astéroïdes et même vers ce qu'on appelle le système solaire externe, c'est-à-dire Jupiter, Saturne et encore plus loin.
On se rend compte que la voile existe depuis la nuit des temps en mer. Et vous êtes en train d'inventer la voile dans l'espace, finalement. Il y a un aspect presque poétique dans cette histoire-là.
On avait observé au XVIIe siècle, Kepler, en regardant les comètes, s'était rendu compte que la queue des comètes était impactée par la lumière et qu'elles étaient poussées d'une certaine direction. Et il s'était dit à l'époque, nous pourrions peut-être dans le futur avoir des grands voiliers spatiaux qui nous permettraient de naviguer toujours plus loin. Aujourd'hui, la révolution, c'est qu'on a réussi à miniaturiser toute cette technologie et faire tenir dans un satellite qui fait la taille d'une boîte à chaussures 75 mètres carrés de voile solaire. Donc, comme vous le disiez, mardi 3 janvier, nous avons envoyé notre premier satellite dans l'espace avec la société américaine SpaceX. Nous avons déployé à 530 km d'altitude notre premier prototype de voile solaire, la mission Gamma Alpha.
Alors, la voile a été déployée ou pas encore ?
Pas encore. Nous attendons, on a reçu ce qu'on appelle les premières recettes en vol, c'est-à-dire qu'on a fait nos premiers étalonnages, on a reçu un petit peu les premières télécommunications et on a établi le contact avec notre boîte qui tourne actuellement à une vitesse de 28 000 km/h. C'est la vitesse orbitale lorsque l'on tourne autour de la Terre.
D'accord.
Et nous allons au printemps déployer notre voile. On a attendu le printemps parce qu'on a la chance de faire un vol avec l'agence spatiale française, le CNES, un vol dans un avion A300 0G qui fait des paraboles.
Oui.
On a eu la chance de faire ce vol au mois de mars pour pouvoir tester et régler nos derniers softwares et algorithmes avant de déployer en toute sécurité cette voile au printemps.
Elle fait 73,3 mètres carrés.
C'est ça.
C'est fou parce que c'est grand finalement pour une petite boîte qui a la taille de quoi ? D'une petite valise ?
C'est une petite boîte à chaussures.
Une boîte à chaussures, donc c'est plus petit qu'une valise.
Exactement. Et ce qui est assez intéressant, c'est que la voile solaire, en plus d'offrir un type de propulsion nouveau pour aller sur très longues distances et même avoisiner des vitesses qui sont toujours plus intéressantes, pourrait aussi être utilisée en guise de grande antenne. En fait, ce que l'on maîtrise chez Gamma, c'est bien sûr la propulsion photonique, mais de manière plus générale, c'est le déploiement de supersurfaces dans l'espace. Et aujourd'hui, c'est une qualité qui est peu trouvée dans certaines sociétés. On imagine beaucoup de choses avec une grande surface. On peut faire des antennes, on peut faire de la télécommunication, faire de la déorbitation.
Mais
c'est
vraiment une
technique qu'on est en train de maîtriser, qu'on est en train de protéger et qu'on est en train de construire avec la société Gamma qui aujourd'hui emploie une vingtaine de salariés en région parisienne à Ivry-sur-Seine.
C'est ça. Et donc vous avez été créé en 2020. Donc là, ce que vous allez démontrer, c'est que votre concept fonctionne. On est d'accord.
Exactement. Ce que l'on démontre, c'est qu'on arrive à déployer une voile solaire depuis un satellite.
C'est ça.
Et ensuite qu'on arrive à naviguer avec cette voile solaire.
Et elle va aller où cette voile solaire ?
Alors elle va rester en orbite basse pour l'instant, puisque c'est assez compliqué de quitter l'orbite basse avec ce type de système, parce qu'on a encore ce qu'on appelle de l'atmosphère résiduelle, n'est-ce pas ? On a l'oxygène atomique qui nous empêche de partir trop loin, mais avec cette première mission de démonstration, ce premier démonstrateur Gamma Alpha, on est vraiment là pour montrer qu'on arrive à créer une mission spatiale, à déployer une voile solaire dans l'espace, et sur notre chemin de développement, c'est une étape hyper importante, puisqu'elle nous permet vraiment de rassurer nos investisseurs, de rassurer les gens qui sont derrière nous, au premier rang desquels, encore une fois, l'Agence française de l'espace, et puis d'autres investisseurs, et c'est vraiment sur notre timeline, sur notre guideline, c'est vraiment très important d'avoir cette première étape. On aura une prochaine mission spatiale en 2025, nous allons voler un peu plus haut et nous préparons aussi en parallèle une première mission vers ce qu'on appelle le Deep Space et là nous viserons soit Vénus, soit Mars, c'est encore en négociation.
Et donc là, ce qui est intéressant, c'est que la vitesse que vous allez prendre après dans l'espace, étant donné que là, vous n'avez pas d'obstacle et que en fait votre voile va pouvoir capter cette propulsion photonique, parce que c'est comme ça que ça s'appelle. Hein.
Ouais.
J'ai pas révisé, je lis mes notes, mais ça veut dire que quelle vitesse on pourrait imaginer avec cette technologie, par exemple pour aller. D'un point A à un point B dans l'espace.
Alors en général, les sondes spatiales, lorsqu'elles font des missions un peu lointaines, elles attendent différents alignements des planètes et parfois pour certaines missions qui sont un peu complexes, on utilise ce qu'on appelle l'assistance gravitationnelle.
Oui, c'est ça.
D'aller assez loin et assez vite. C'est ce qu'avaient fait les sondes Voyager avec les disques.
C'est-à-dire qu'elles tournent autour d'une gravité, puis après elles partent en fait parce qu'elles ont pris un élan en quelque sorte.
C'est ça. Avec la voile solaire, si par exemple on fait un peu comme une assistance gravitationnelle, c'est pas ça du point de vue de la mécanique céleste, mais ça s'en rapproche beaucoup. Si par exemple on vient frôler le soleil, on a deux effets, on a une luminosité explosive et on a la masse du soleil qui nous attire pour ensuite nous éjecter à des vitesses. On pourrait théoriquement approcher des pourcentages sérieux de la vitesse de la lumière avec une voile solaire, c'est-à-dire 0,5, 1%, 2%, 5%, dépendamment de ensuite tous les calculs de mécanique céleste. Mais c'est aujourd'hui le vaisseau spatial le plus rapide que l'homme peut construire dans la mesure où notre carburant, c'est le photon.
Incroyable. Et puis c'est du carburant qui est à volonté finalement, c'est ça qui est infini. C'est ça qui donne un peu le tournis. Merci beaucoup Louis d'être passé par le plateau de Tech & Co. Louis de Gouillon-Matignon, cofondateur de Gamma. C'est un projet qui est soutenu par le CNES et CMA, CGM aussi. Merci. Stéphane Quentin, bonsoir.
Bonsoir.
Allez, on change d'univers, on revient sur Terre pour se divertir, parce que c'est important aussi. Alors, on a rêvé avec Louis et avec vous, Stéphane, on va s'intéresser à la puissance de Nvidia. Nvidia, dont vous êtes le responsable de communication consumer France. Nvidia qui, on le sait, est un acteur majeur aujourd'hui dans la tech, depuis de nombreuses années. Oui. Les cartes graphiques. Oui. la puissance de calcul, votre stratégie aujourd'hui pour embrasser l'automobile depuis pas mal d'années. Est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement Nvidia, s'il vous plaît?
Tout à fait. Donc, en fait, ce qui est amusant, c'est qu'on parlait de la lumière et le grand leitmotiv en ce moment de Nvidia, bah, c'est le ray tracing, la simulation de la lumière dans les jeux vidéo. Donc,
c'est ça. Qui apporte du réalisme.
Bah, voilà, l'immersion, c'est la dernière chose à simuler dans le domaine des jeux vidéo et des moteurs. C'est vraiment la lumière et cette difficulté à la simulation. Donc, Nvidia, donc, c'est une boîte qui a été construite, une boîte américaine, fondée en 1993. Aujourd'hui, la capitalisation boursière est d'un peu plus de 400 milliards de dollars. Et puis voilà, donc on intervient dans la puissance de calcul brute, que ça soit pour de la simulation visuelle. Maintenant, l'intelligence artificielle, on est leader dans l'intelligence artificielle et on va trouver à peu près tous nos GPU, tous nos accélérateurs, tant dans les voitures, dans les data centers, dans les PC de Monsieur Tout-le-Monde, à peu près partout maintenant dans le monde, on trouve des GPU Nvidia, des accélérateurs Nvidia.
Voilà, parce qu'en gros, dans un ordinateur, vous avez du CPU, hein, ça c'est plutôt Intel, AMD, etc. Et vous avez le GPU, qui est donc le processeur graphique, en quelque sorte, et qui, en fait, nécessite une puissance de calcul
parallèle.
Voilà. Parallèle.
La grande spécificité de ce que sait faire Nvidia, c'est le calcul massivement parallèle. Et ce calcul massivement parallèle a toujours été utilisé dans le domaine de la 3D, de la simulation, mais maintenant de plus en plus dans l'intelligence artificielle. Et c'est vrai que depuis l'arrivée des gros data centers ou de l'IA, l'explosion de l'IA, en fait, le GPU est devenu le produit le plus renommé dans ce domaine-là.
Alors, parmi toutes les activités que vous avez, vous poussez en ce moment beaucoup le cloud gaming, parce que effectivement, vous savez faire, hein, avec la puissance graphique, etc., et puis l'intelligence artificielle. Vous avez lancé il y a quelques années une offre de cloud gaming qui s'améliore, là. Vous l'avez annoncé cet après-midi, d'ailleurs, donc l'actu est vraiment toute fraîche. Peut-être un mot d'abord sur cette offre de cloud gaming et puis ce que vous avez annoncé cet après-midi, Stéphane.
Alors, en fait, le cloud gaming chez Nvidia, c'est quelque chose qui est fondamental, puisqu'on a développé les technologies qu'on utilise dans le cloud gaming, donc le streaming de jeux vidéo, hein, clairement, comme on peut le voir. Et donc, en fait, on a travaillé sur ces technologies depuis maintenant plus de 10 ans. Et on a lancé l'offre...
Vous avez été les tout premiers, finalement.
Oui, tout à fait. Enfin, voilà, le GPU, c'est le fait de transformer un univers 3D en vidéo et de le streamer, puisqu'on se conçoit, donc on joue au cloud gaming, c'est une vidéo de quelque chose qui a été calculé en 3D. Donc, toutes ces mécaniques sont faites au sein du GPU, donc on a mis en place beaucoup de technologies derrière ça. Et donc, du coup, on a développer GeForce Now, l'offre commerciale grand public, qui a été lancée en 2018.
Donc GeForce Now.
Avoir une GeForce, voilà, tout de suite, on peut en avoir une. Donc en 2018, elle évolue de plus en plus grâce à l'introduction de nouvelles architectures. Donc en 2018, quand on avait introduit GeForce Now, on avait introduit sur ce qu'on appelait les GeForce RTX série 2000, donc l'architecture à l'époque qu'on appelait Turing.
Alors ça, les RTX, ce sont vos cartes graphiques, en quelque sorte. C'est les dénominations des cartes graphiques.
Au-delà des cartes graphiques, c'est les technologies justement que Nvidia pousse, qu'on va retrouver dans les cartes graphiques qu'on trouve dans les portables par exemple ou dans les desktops, mais également dans GeForce Now ou d'autres solutions. Donc RTX, c'est tout ce qui parle de justement du ray tracing, tout ce qui parle de la latence, toutes ces choses-là qu'on va utiliser, le DLSS, l'intelligence artificielle. On parlait beaucoup d'intelligence artificielle. Comment le jeu vidéo exploite l'intelligence artificielle aujourd'hui via la création d'images. Donc ça, c'est toutes les technologies RTX. Et donc GeForce Now exploite ces technologies RTX. Et fin de l'année dernière, on a introduit une nouvelle architecture qui s'appelle Ada Lovelace, qui est une architecture qui a été introduite par les séries 4000 en GeForce pour les ordinateurs de bureau ou les joueurs de gaming. Et là, cette architecture-là, elle a été déployée
en cloud gaming.
Dans les data centers de cloud gaming.
Stéphane, si je comprends bien, je peux avoir n'importe quel PC, n'importe quel écran, petit, grand, moyen, pas très puissant. Je m'abonne à votre offre, en fait, et je vais me retrouver avec une qualité de jeu vidéo et d'affichage de jeu vidéo sur cet écran hors du commun, parce que, justement, il y aura toute la puissance graphique qui sera dans le cloud, dans des serveurs, qui va arriver sur ma télé, mon smartphone ou sur mon PC.
Voilà, donc là, maintenant, on prend à peu près tous les écrans qui sont disponibles sur le marché, donc ça va effectivement d'un PC qui n'a pas les capacités graphiques, un smartphone Android, un iPhone...
Du hardware, d'avoir un écran, en fait.
Il faut un écran avec certaines résolutions. Et là, la dernière offre, l'offre GeForce Now Ultimate, c'est 5 fois plus performant qu'une console de salon aujourd'hui. Donc on peut atteindre des résolutions comme le 4K 120 images par seconde, ou pour ceux qui se préfèrent les jeux compétitifs, du Full HD, du 1080p à 240 images par seconde. On a une qualité visuelle en ray tracing avec tout ce qu'on... Voilà, qui est l'équivalent d'une machine qui vaudrait aujourd'hui 3000 euros en termes de machine de PC.
Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez annoncé au CES que tout ça pourrait même marcher dans la voiture, parce que c'est vrai que la voiture va devenir de plus en plus un endroit où on aura du temps à passer, à se divertir, et on pourra jouer à du cloud gaming dans la voiture directement.
Surtout au moment où on doit les recharger, souvent les voitures électriques. Oui. Donc, il faut savoir que Nvidia effectivement a une plateforme qui s'appelle Nvidia Drive, qui maintenant équipe pas mal de constructeurs automobiles.
Mais vous êtes le cerveau de pas mal de voitures.
Pour l'IA et tout ça. Et effectivement, maintenant, on va pouvoir streamer via la 5G, puisque la 5G, c'est aussi une des clés pour le cloud gaming, à travers les véhicules directement derrière. Voilà.
Donc, la première offre, elle est gratuite, en fait.
On a une première offre gratuite.
Et ça monte jusqu'à 20 euros si on veut top du top, GeForce si on est vraiment un gamer, etc.
Tout dépend de ce que vont rechercher. Parce qu'effectivement, maintenant, un téléviseur, c'est du 4K. Un téléviseur, c'est 120 images par seconde. Donc, on veut jouer au dernier blockbuster, à Cyberpunk, on n'a pas forcément envie d'acheter une machine spécifiquement pour jouer à un jeu. On peut s'abonner directement à un service qui va vous permettre de faire ce genre
Voilà, c'est la nouveauté du jour du côté de chez Nvidia. Merci beaucoup, Stéphane.
Merci, François.
Stéphane Quentin, responsable communication, donc Nvidia Consumer France. Vous restez avec nous, 20h30. On va revenir dans quelques instants découvrir NanoMade. Là aussi, une belle technologie qui rend toutes les surfaces sensibles et tactiles en quelque sorte pour avoir des commandes en fait. Par exemple sur de l'acier, du tissu, du métal, du verre. C'est passionnant. Et puis après, on repartira dans l'espace avec nos deux startups Kileis et Loft Orbital qui me rejoindront. Vous restez avec nous, on revient juste après l'Info Echo. À tout de suite.
BFM Business, l'Info Echo.
20h30 sur BFM Business, merci d'être avec nous, belle soirée. On retrouve tout de suite l'Info Écho avec Sofiane Aklouf ce soir. Bonsoir Sofiane.
Bonsoir, et à la une nouvelle journée de mobilisation déjà prévue par les syndicats, elle est fixée au mardi 31 janvier. Les manifestations contre la réforme des retraites ont rassemblé plus d'un million de personnes selon le ministère de l'Intérieur. La CGT en revendique le double. Le ministre du Travail, Olivier Dussopt, concède ce soir une mobilisation importante. Tous les secteurs se sont mobilisés. Un salarié sur deux à la SNCF. Même mobilisation du côté d'EDF. Deux coupures volontaires de courant ont été relevées par Enedis. Dans l'Essonne et en Haute-Marne, la CGT revendique cette coupure. Des retraites, il en sera aussi question évidemment demain dans la grande interview de la matinale. Bruno Le Maire est l'invité de Good Morning Business. On vous donne donc rendez-vous à 8h15. L'autre grand titre de l'actualité éco ce jeudi, c'est la prise de parole de Christine Lagarde au Forum de Davos. La conjoncture économique ne sera pas brillante, mais s'annonce bien meilleure qu'attendue. C'est ce qu'elle déclare, ce que déclare la présidente de la BCE, qui reste néanmoins déterminée à poursuivre la remontée des taux face à l'inflation. Dans l'actualité des entreprises cette fois, le tribunal de commerce de Grenoble a placé aujourd'hui Gosport en redressement judiciaire après avoir constaté son état de cessation de paiement. Deux administrateurs et deux mandataires judiciaires ont été désignés pour une première période d'observation de 6 mois afin de gérer l'entreprise sous le contrôle du parquet. Le dossier Orpea bientôt entre les mains de la justice. La conciliation entre le propriétaire de maison de retraite et ses créanciers a échoué hier. Il refuse le projet de la Caisse de dépôt qui proposait d'injecter 1,2 milliard d'euros pour en prendre le contrôle. Une procédure de sauvegarde semble donc inévitable. Les investisseurs vont inonder l'Ukraine à la fin de la guerre avec la Russie. C'est la déclaration du patron de BlackRock. Il affirme avoir fait part de son intérêt pour la reconstruction du pays au président ukrainien Volodymyr Zelensky. Et la bourse pour finir, après 6 séances dans le vert, le CAC 40 souffle ce soir. Étienne Brac, l'indice perd 1,8% à la clôture à 6951 points.
Oui, une petite pause après un début d'année qui a été historique sur les indices, puisque sur les principaux indices en Europe, c'était leur meilleur démarrage de leur histoire. Il ne faut pas oublier que le CAC 40 avait gagné 9% en moins de 3 semaines. Donc ce soir, on a une pause qui est jugée légitime par les acteurs de marché. Alors ce qui a provoqué ce coup d'arrêt aujourd'hui, c'est le rappel à l'ordre des banquiers centraux, que ce soit hier aux États-Unis, aujourd'hui en Europe. Ils martèlent qu'ils vont continuer à remonter les taux, et ça le marché c'était pas vraiment anticipé puisque depuis quelques semaines il voit que le pic d'inflation est passé, que les problèmes d'énergie en Europe s'apaisent et que l'Allemagne voire même la France ne seront pas en récession cette année, donc par rapport à cela ils s'attendaient à des banquiers centraux qui allaient relever leurs taux mais de façon un peu moins virulente, et le moins que l'on puisse dire c'est qu'ils ont remis les pendules à l'heure, donc on a un marché qui s'ajuste, qui souffle un petit peu. 6951 points ce soir. soir à la clôture pour le CAC 40, François.
Merci beaucoup Étienne Brac, il est 20h34 tout pile. Tech & Co revient tout de suite, bien sûr, on est ensemble chaque soir, vous le savez, 20h, 22h, toute l'actualité tech, c'est chez nous. À tout de suite.
Tech & Co, le grand live du numérique, avec François Sorel.
Je vous propose maintenant de découvrir une start-up issue de recherches menées au CNRS. Il s'agit de NanoMade et Olivier de Trémaudan, son président et principal investisseur, est avec nous. Bonsoir Olivier.
Bonsoir François.
Alors, vous allez nous présenter une innovation très intéressante qui permet en fait d'ajouter une fonction tactile et d'inventer des commandes sur des surfaces étonnantes. Par exemple, du tissu, du cuir, du métal. Imaginez pouvoir toucher du tissu et en même temps avoir une fonction tactile sur ce tissu. C'est ce que vous faites chez NanoMade, absolument, d'après ce que j'ai compris.
Absolument. Alors, à la base, c'est une, comme vous l'avez dit, une technologie qui est issue du CNRS de Toulouse. Donc, en fait, on a inventé une encre composée de nanoparticules qu'on va imprimer sur un support ultra fin, ultra flexible. Ça fait 200 microns. Et en fait, ce support, on va le coller sous n'importe quel type de matériau.
Dessous.
Donc, d'accord, en fait, on ne le voit pas. Il est invisible, non invasif, et quelle que soit la surface. Et ça, c'est très important, parce que c'est pas forcément une surface plane. Ça peut être, on peut même l'intégrer à l'intérieur d'un stylo. Et en fait, le principe, c'est que on va récupérer la pression exercée, par exemple, par rapport par des doigts, et du coup comme ça va créer, en fait, cette encre va se déformer et va créer un effet quantique, on va pouvoir mesurer de manière exponentielle une résistance en fonction, en fait, de la pression qui est exercée sur le support ou sur le matériau.
D'accord. Et donc à ce moment-là, on se retrouve avec des commandes tactiles.
Exactement.
Sur n'importe quel
Type de
support.
De support. Alors il y a bien sûr le premier enjeu pour nous, c'est l'habitacle du véhicule. Supprimer tous les boutons, les lèvres-vitres, le démarreur, les boutons pour régler la radio ou accéder au tableau de bord.
Pour qu'on comprenne bien, s'il vous plaît, Olivier, parce que c'est fascinant, hein. Imaginons un tableau de bord sans boutons physiques, d'accord ? On pourrait avoir simplement des dessins pour qu'on puisse savoir où il faut appuyer, parce que on peut imaginer qu'on ait plusieurs commandes, en fait, sur une surface donnée, et il suffirait d'effleurer, en fait, cette commande dessinée pour que il y ait une action qui se fasse.
Alors tout à fait. Alors on peut effleurer, on peut swiper aussi comme un écran de smartphone, et comme c'est un capteur de force, en fait, on peut très bien imaginer
des fonctions différentes si j'appuie plus ou moins fort.
Si vous appuyez plus ou moins fort. Et voilà, c'est tout l'intérêt de la technologie, c'est qu'en fonction de la pression, on va valider. On peut, par exemple, baisser plus ou moins vite une vitre en fonction de la pression qu'on va exercer avec le doigt, et ce complètement caché dans le design du véhicule. Par exemple, sur un bel alu brossé, on peut créer entièrement une commande qui sera totalement invisible et sensible à la force, avec du swipe, tout ce qu'on a, par exemple, sur un écran de smartphone.
Ouais, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a même des fonctions santé, mais on va en parler dans un instant. J'aimerais que vous nous racontiez un petit peu votre histoire entrepreneuriale avec NanoMade, parce que NanoMade, vous l'avez racheté en 2019, cette société, qui était au bord du gouffre, hein, qui
absolument
était en liquidation judiciaire. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête? Alors, vous vous êtes dit, pourquoi, à quel moment vous vous êtes dit, bah tiens, cette boîte qui va mal, bah je vais la racheter?
Alors, je connaissais déjà la boîte parce que je connaissais un des business angels de l'ancienne équipe qui était un de mes amis, et j'adorais la techno, voilà. Au début, j'y comprenais rien. Moi, je viens du monde du e-commerce, j'avais vendu ma société en 2015 dans le e-commerce, donc ça n'a rien à voir. Ceci dit, j'ai fait une école d'ingénieur, donc ça m'a servi à quelque chose.
Il restait quelques bribes de curiosité.
Exactement. Ça m'a pas servi à rien. Et quand mon associé, donc qui est le CEO Jean-Claude, m'a dit, voilà, qui était aussi actionnaire de la société, mais pas exécutif, m'a dit, NanoMade va pas bien. Regarde, est-ce qu'on pourrait faire quelque chose? Moi, j'étais dans.
Il faisait la même chose que ce qu'ils font aujourd'hui.
Alors un petit peu différemment. Mais c'est la même techno, sauf que nous, depuis qu'on l'a repris, on s'est vraiment focalisé sur des usages très précis.
D'accord.
Parce que vous imaginez, avec tous ces usages possibles, on peut, oui, le champ des possibles est
on peut se disperser en quelque sorte.
Et on se disperse, et c'est probablement ce qui s'est passé précédemment.
C'était ça, à votre avis, la
la raison de l'échec, en fait, de la première génération d'AnnoMade. Ben,
pour arriver à un niveau de technologie comme ça, il y a eu beaucoup d'argent investi, hein, plusieurs millions d'euros. Après, faut partir très vite en commercialisation. Et je pense que le gap entre les deux a été un peu trop long. Et c'est là où la société se retrouve en difficulté. Et c'est à ce moment-là que je suis arrivé pour investir et relancer la structure.
Avec Jean-Claude Rassou, un ancien Motorola.
Exactement.
Avec qui vous avez repris les rênes de cette société.
Tout à fait.
Aujourd'hui, vous en êtes où? Parce que vous avez plus de 20 brevets, vous êtes classé 42e entreprise française la plus innovante, ça c'était il y a quelques années, en 2019. Vous avez, 1 million d'euros ont été injectés en 2022. Vous prévoyez une levée de fonds cette année. C'est quoi la prochaine étape? Il faudrait quoi? Que vous arriviez à convaincre un constructeur automobile du bien fondé de votre technologie, c'est ça? Alors, vous focalisez sur l'auto là actuellement?
Tout à fait, ouais, sur l'auto et l'aéronautique. Aujourd'hui, on discute avec des constructeurs, mais c'est pas eux qui passent commande directement auprès de nous.
Ce sont des équipementiers.
C'est des équipementiers, voilà. Et donc, en fait, nos partenaires sont des équipementiers.
C'est quoi? C'est des Valeo, par exemple, ou des boîtes comme ça?
Par exemple, des gens comme ça, où on travaille aujourd'hui avec un équipementier allemand pour des marques haut de gamme allemandes. Pour justement créer
ça pourrait intéresser Plastic Omnium, qui était d'ailleurs il y a quelques temps de cela.
Absolument.
Sur le plateau de Tech&Co.
Tout à fait. Je les invite à prendre contact avec nous. Donc l'objectif aujourd'hui, on fabrique des capteurs. On en fabrique quelques dizaines de milliers par an dans nos labos à Toulouse, que vous pouvez voir là à l'écran.
Mais ils servent à quoi ces capteurs aujourd'hui? Vous les fabriquez, vous les vendez à qui?
Alors on les vend essentiellement pour des prototypes.
D'accord.
Parce que justement, avant de passer à l'échelle et avant de produire des millions de pièces dans l'automobile, il faut faire tout un tas de protos. Il faut aussi tester ces capteurs dans des environnements contraints, moins 40 degrés, 100% d'humidité, parce qu'un véhicule, bien sûr, doit subir ces tests-là. Et donc, pour nous, aujourd'hui, l'enjeu, c'est qu'on est des artisans. Voilà, on fabrique 10 000, 20 000 capteurs par an. Il faut qu'on passe à l'échelle, parce qu'on commence à répondre justement à des appels d'offres de très grosses quantités. Donc là,
pour il faut nous, être prêt le jour où on appuie sur le bouton, on vous en commande un million.
Exactement.
Quoi.
Voilà, c'est ça la question. Et pour répondre, il faut être prêt. Donc c'est là où c'est un peu la quadrature du cercle. Et donc c'est pour ça qu'on va investir dans une ligne de production pour nous permettre de produire à bas coût, parce qu'on est quand même dans l'environnement de l'automobile. Il faut être capable de produire pas cher.
Produire en France?
Produit en France, ouais, tout à fait.
D'accord.
Absolument. Et l'intérêt, comme c'est des productions, on fait du light manufacturing, l'intérêt de nos technologies, puisque c'est de l'impression, hein, c'est une encre, c'est aussi de pouvoir monter des unités de production proches des équipementiers, afin de leur permettre de ne pas avoir de rupture et de pouvoir intégrer directement nos capteurs dans leurs pièces. Et ça, c'est quelque chose qui les séduit d'être au plus proche, finalement, de leur unité de production.
Voilà. Voilà. Donc rappelons que grâce à votre technologie, on peut rendre tactile le tissu, le cuir, le métal, le verre ou le plastique. On peut imaginer les débouchés que ça peut avoir dans le monde automobile ou l'aéronautique, comme vous le disiez. Hein. On est dans un avion, on a notre petite tablette avec notre écran, pour commander des trucs. On pourrait très bien le faire en effleurant simplement, ce qui permettrait aussi d'éviter les pannes, les choses comme ça, puisque comme ça serait intégré dans une surface robuste, en quelque sorte, il y a beaucoup moins de risques de panne et de casse, en quelque sorte. Ça a du sens.
C'est le cas d'ailleurs, je me souviens plus du terme technique, mais de la commande qu'on a dans l'avion, dans la coudoir.
Oui.
Ça casse tout le temps.
Si ça casse pas, c'est un problème.
C'est sale, exactement. Et donc, nous, en fait, on intègre le capteur dans le plastique de la coudoir. Si, par exemple, on est dans une classe éco, donc qui est quand même un plastique qui fait 4-5 mm d'épaisseur, ultra résistant. Et malgré ça, en fait, grâce à la sensibilité du capteur, en passant son doigt dessus, on pilote ça comme un écran de smartphone.
Cerise sur le gâteau, on en parlait tout à l'heure. Votre technologie a des fonctions santé aussi?
Absolument, ouais, parce que figurez-vous que ce capteur est tellement sensible que si on le met sous la mousse, par exemple d'un fauteuil ou d'un lit, et qu'une personne va s'asseoir ou s'allonger dessus, en fait, on va être capable de repérer les micro-déformations de la mousse issues du rythme respiratoire et de la cardio-balistographie du cœur, c'est-à-dire en gros le rythme cardiaque. De là, on en déduit le HRV, donc tout un tas de choses sur la santé de la personne qui voyage, par exemple, si on est dans un avion, ou des fonctions de well-being. On est capable, 15 minutes avant, de détecter qu'une personne va s'endormir. Et donc, typiquement, dans des business class, puisque notre technologie, on va commencer à la commercialiser auprès d'une compagnie aérienne cette année, pour les premières business class. Et donc, l'objectif, c'est d'arriver à monitorer en fait le passager pour savoir son niveau de stress, pour savoir son niveau de fatigue. Et typiquement, l'objectif, c'est d'arriver, voilà, la personne est en train de s'endormir, le siège va s'allonger directement, les lumières vont s'éteindre.
Oui, parce que ses fonctions vitales commencent, s'approchent de l'endormissement.
Voilà. Et l'avantage, c'est que ce capteur est totalement non intrusif et non invasif.
Oui, bien sûr, il est complètement invisible.
Voilà. Exactement, comme si on avait une Apple Watch, sauf qu'on n'a pas besoin d'avoir une Apple Watch.
C'est ça. Merci beaucoup Olivier de Trébaudan, c'est passionnant. Nanomail, merci d'être venu nous présenter tout cela. Vous en êtes le président et le principal investisseur. Merci beaucoup.
Merci, bonne soirée.
Et vous restez avec nous, on repart dans l'espace dans un instant avec Kileis et Loft Orbital. Ils vont nous expliquer ce qui s'est passé le 3 janvier dernier du côté de Cap Canaveral. A tout de suite.
Tech & Co, le grand live du numérique avec François Sorel.
Le retour donc de Tech & Co. Dans un quart d'heure, ce sera le grand débrief de l'actu tech de ce jeudi soir. Mais auparavant, on va s'intéresser à cette expérimentation menée par Kineis et Loft Orbital qui ont réussi la mise en orbite de leur satellite partagé. Alors, c'est eux qui ont réussi avec aussi un acteur important. Hein. Il s'agit de SpaceX. Alexandre Tisserand est avec nous ce soir. Bonsoir Alexandre.
Bonsoir.
Président de Kineis donc et Antonin Hirsch. Bonsoir Antonin.
Bonsoir.
Vous êtes directeur de l'équipe radiofréquence et traitement du signal chez Loft Orbital. Donc deux sociétés spatiales, deux pépites de la French Tech. Hein. Vous êtes tous les deux dans le fameux Next 40. Tiens, il y a bientôt l'édition Next 40 2023 qui va
tout
arriver.
Tout à fait.
Commencez à avoir des petites...
Ah non, c'est très secret.
C'est très secret tout ça. Même sous la torture, Alexandre, je ne pourrais pas avoir une petite information.
Moi, je ne l'ai pas, mais moi, je n'ai pas torturé non plus, donc je ne sais pas.
Ah d'accord, donc voilà, c'est ça. Bon, on va attendre sagement que ce résultat très attendu, hein, d'ailleurs, par les pépites françaises se paraisse. Ça va être dans quelques jours, quelques semaines. Antonin, on va commencer par vous. Expliquez-nous ce qui s'est passé le 3 janvier, donc à Cap Canaveral.
Alors, il y a eu un événement très excitant. Alors, c'est notre troisième satellite qui a été mis en orbite par une fusée de Falcon 9 de SpaceX.
Donc, c'est une mission. Donc, la fusée d'Elon Musk, bien sûr.
Exactement. C'est une mission ce qu'on appelle Rideshare. Donc, on n'était pas les seuls. Hein. Il y avait 114 copassagers. La majorité des satellites, c'est plutôt des petits satellites qui font plutôt de la taille d'une boîte à chaussures.
Oui.
On a des satellites un peu plus gros, hein, c'est la taille d'une machine à laver, une centaine de kilos. Et donc le satellite a été lancé, il a une orbite de 525 km et il est en train de faire tranquillement sa vie. Donc c'est vraiment un événement qui est toujours exceptionnel, hein, même si jamais c'est notre deuxième lancement, c'est toujours un super moment.
Et bien sûr.
C'est vraiment la concrétisation de beaucoup de travail et c'est quelque chose qu'on partage entre toutes les équipes à Toulouse et aussi aux États-Unis.
C'est incroyable ce SpaceX quand même, hein, plus de 100. En fait, c'est un peu un A380 du satellite, ça, en quelque sorte.
Exactement. Hein,
c'est ça. Et il envoie, il déploie plus d'une centaine de projets de satellites de toute taille, comme ça, qui, après, partent dans chacune de la direction qui lui a été programmée. C'est incroyable, quand même.
Tout à fait. Mais dans le New Space, c'est des choses qu'on voit, même les lanceurs européens. Enfin, Vega a fait ça pas plus tard que l'année dernière. Mais là, c'est vrai que ça atteint une
ampleur. Ariane 6 fera ça aussi, si tout va bien.
Oui, bien sûr. Bien sûr.
Voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé donc le 3? Vous avez lancé votre satellite. Il sert à quoi, en fait, ce satellite?
Alors, bon, ce satellite, donc c'est un satellite...
Et après, on donnera la
parole,
évidemment.
Donc, c'est un satellite où on a un certain nombre de missions, dont une des missions, et on est très fiers de ça, c'est qu'on on déploie une mission pour Kineis et Ternwave. Donc, c'est une mission qui a été lancée dans le cadre du plan de relance et qui a été régionalisée avec le soutien du CNES et de la région Occitanie.
Mm-hmm.
Je vais en parler plus tard après. Donc c'est on déploie ce qu'on appelle le RF Space Lab. Mais on a aussi un certain nombre de missions qui sont co-hostées au sein de satellite. C'est un peu notre business model. On a notamment une caméra pour le compte de la NASA qui va venir prendre des images de la Terre pour pouvoir monitorer le changement climatique. Et on déploie aussi des algorithmes d'intelligence artificielle dans nos satellites pour pouvoir faire du traitement en orbite. Donc voilà, on a plusieurs missions et on est très content de pouvoir déployer la mission Kineis.
Alors justement, Kineis, on rappelle ce que c'est. Vous étiez venu nous en parler, Alexandre, et c'est passionnant, hein, le fait de vouloir créer une espèce de... réseaux pour les objets connectés, mais au niveau mondial, par satellite, en fait.
Tout à fait, tout à fait. Et en fait, on a
c'est
déjà
un peu un Starlink pour les, pour schématiser, hein. Ouais. C'est un Starlink pour les objets connectés.
Mais exactement. Et c'est vraiment très complémentaire en termes de technologie. On s'adresse vraiment sur des objets qui sont petits, petite taille, low cost, petite data.
Et qui sont sur Terre.
Autonomes, et qui sont sur Terre. Et donc aujourd'hui, on a déjà 9 satellites qui volent. On a quelques dizaines de milliers de terminaux qui sont connectés à ce réseau. On va lancer à partir de la toute fin d'année nos 25 satellites, donc ils vont faire une constellation supplémentaire par rapport aux 9 pour vraiment améliorer la performance du système. De
la couverture, c'est ça ?
Alors la couverture est déjà globale,
d'accord.
Mais ça va nous permettre en tout point du globe d'avoir une donnée en 10 à 15 minutes, quel que soit l'heure de la journée.
Parce que plus il y a de satellites,
plus ils repassent souvent.
Voilà. Et aujourd'hui, il faut combien de temps, par exemple,
pour avoir on est entre 1 et 4 heures selon les endroits de la planète.
D'accord. Quels sont les objets connectés
objets connectés,
à Kinéis.
Donc il y a pas mal d'applications. Historiquement, c'est plutôt des usages typiquement scientifiques ou de protection de l'environnement, c'est-à-dire des scientifiques qui vont suivre des animaux pour étudier l'immigration.
Donc l'animal va avoir un collier.
Un collier, la tortue, une petite balise sur la carapace, un oiseau, une toute petite balise de quelques grammes.
C'est incroyable.
Qui va porter pendant des années. Et on a ça sur des bateaux de pêche pour éviter qu'ils aillent dans les zones de pêche illégales. Et avec ce qu'on fait avec Kinéis, en fait, avec les 25 satellites, on a donc une meilleure performance et aussi beaucoup plus de capacité, ce qui nous permet de réduire les prix et au final d'avoir de nouveaux marchés comme ceux de la logistique, de l'agriculture de précision ou bien la surveillance d'infrastructures. Et ce sujet de capacité est super important parce qu'évidemment, si dans le même satellite avec la même fréquence, vous mettez plus de terminaux, plus de balises, bah, évidemment, vous pouvez répartir le coût et donc baisser les prix. Et c'est exactement un des objets de la manip qu'on fait avec ce RF Space Lab, avec Loft Orbital, c'est qu'on va tester d'ores et déjà des nouvelles modulations, des nouveaux protocoles, des nouvelles fréquences pour l'Internet des objets, pour préparer le futur. Parce que le futur se prépare toujours très tôt dans le spatial, ça prend des années. Et si ça marche, on pourra l'implémenter en partie sur les satellites qu'on va lancer dès la fin d'année, parce que tout ça est reprogrammable. Et dans tous les cas, ça prépare à l'avenir pour une deuxième version de Kinéis qu'on lancera un jour, qu'on est évidemment déjà en train de penser, puisque tout ça est très long.
Évidemment, parce qu'aujourd'hui, vous dites quelques dizaines de milliers d'objets connectés, mais dans 10-15 ans, ça pourrait être des milliards.
Et donc, bien sûr. Alors,
la technologie, votre technologie aujourd'hui n'est pas prête pour accueillir des centaines de millions ou des milliards d'objets connectés. Donc il faut passer à l'échelle et imaginer le futur.
C'est exactement ça. On part d'une techno qui nous permettait de faire quelques dizaines de milliers. On va lancer de quoi faire quelques millions, voire dizaines de millions. Et avec ce qu'on commence à préparer maintenant, on espère encore multiplier par 10 ou davantage dans le futur. Et ce qui permettra, encore une fois, d'avoir des choses très abordables en termes de coûts.
Comment est née cette association, tous les deux? Comment ça s'est passé?
Alors, nous, c'est l'essence même du business model de Loft Orbital. Donc, on offre la possibilité à des clients qui ont des instruments à déployer en orbite. Donc, ça peut être soit des caméras ou ça peut être soit des systèmes radio. Donc, dans le cas précis, c'était la nécessité d'avoir en l'air ce qu'on appelle un RF Space Lab. Donc, c'est un laboratoire radio logiciel reprogrammable en orbite, qui va permettre à Kinéis de pouvoir capter depuis l'espace les signaux radioélectriques pour faire notamment la mesure du spectre de l'occupation des bandes de fréquence pour pouvoir vérifier l'adéquation et la performance de l'Internet des objets. Et ça permet aussi également de pouvoir démoduler en orbite des signaux. On va notamment tester la modulation d'une autre société toulousaine qui s'appelle Ternwaves. Et donc c'est un véritable avantage concurrentiel pour ces sociétés de pouvoir avoir en orbite dans un délai très très rapide. Donc c'est ça qui nous démarque entre le moment où on a commencé à discuter la mission et maintenant le satellite qui est en orbite est prêt à délivrer. On parle de quelques mois, là où classiquement une mission spatiale d'habitude on parle plutôt de 3 ou 4 ans.
C'est ça, de quelques
années.
C'est
vraiment la force de Loft Orbital.
Mais alors comment vous allez vous connecter à ce satellite? Parce que en fait vous allez faire des essais. Tout simplement, c'est un petit comme si moi je changeais ma box Wi-Fi, j'exagère.
Avec une box que vous auriez.
Mais que j'aurais, avec de nouvelles fréquences et voir si je capte bien, si ça passe bien, etc.
On schématise. La journée,
c'est quasi du bricolage, quoi.
Mais un peu plus que le bricolage, parce qu'en termes de qualité, on est au-dessus. Mais
je parlais de ma box Wi-Fi.
Bien sûr. Mais ouais, et alors cet aspect. l'aspect temporel est super important, hein, Antonin l'a précisé. Pour vous parler de comment est née cette collaboration, bon, évidemment, on se connaît un petit peu tous dans le spatial, à Toulouse et ailleurs.
Et, oui.
Et cette capacité de pouvoir tester des nouvelles technologies en mode vraiment as a service, hein, c'est vraiment le positionnement de Loft aujourd'hui, c'est très utile parce que on gagne un temps fou, que l'itération dans le spatial est à la fois coûteuse en temps et en argent. Vous lancez un satellite, il vous faut déjà 1, 2, 3 ans pour le lancer, le préparer. S'il ne marche pas, il faut recommencer. Et pendant ce temps-là, il faut payer, il faut financer la boîte. Donc que des gens fassent ça de manière récurrente, fréquente, à un coût et un délai abordable, c'est évidemment très précieux.
Qu'est-ce que vous imaginez pour la suite de Kineis, Alexandre ? Alors bon, vous testez évidemment d'autres spectres de fréquences pour justement élargir votre audience, en quelque sorte, et la capacité en fait de vos satellites pour avoir de plus en plus d'objets connectés. Est-ce que demain, on pourrait imaginer, je sais pas moi, avoir nos animaux de compagnie avec une puce connectée à Kineis, notre voiture connectée à Kineis, un porte-clés Enfin, je vais loin, hein. C'est ça que vous imaginez ?
On peut imaginer plein de choses. Il faut bien se rappeler que l'avantage du satellite, c'est de couvrir les zones qui ne sont pas couvertes par les réseaux terrestres. Donc c'est effectivement très complémentaire. Hein. 15% de la surface du globe, c'est les réseaux terrestres. Les 85% qui restent, c'est là où on apporte le satellite. Peut-être que votre frigo ou votre chat, ça ne sera pas super utile parce que de toute façon, il va rester dans un rayon qui sera...
Couvert par d'autres réseaux, c'est ça ?
Oui, voilà, des réseaux terrestres. On parle de LoRa, on parle de NB-IoT, LTE-M, donc des réseaux terrestres bas débit. Et donc nous, on fait des partenariats d'ailleurs avec les opérateurs terrestres pour pouvoir faire des terminaux qui se connectent soit au réseau terrestre quand on est emporté, et dès qu'on sort de la zone, on se connecte directement au réseau satellite.
D'accord.
Donc si votre chat a des envies d'aller très loin à la campagne, peut-être que là, effectivement, ça sera...
Oui, s'il n'y a plus de réseau.
Voilà, exactement.
Et ça ?
Et ça. Et
le smartphone.
Ça, c'est un vrai sujet. Aujourd'hui, il y a des premières annonces qui existent côté Apple, côté Vodafone, sur la connectivité par satellite.
Alors, Qualcomm, qui était le DG de France de Qualcomm, était mon invité hier, qui nous expliquait qu'il lançait en fait un Snapdragon, une puce,
exactement,
avec justement dedans une connexion satellite.
Voilà.
Ça vous intéresse, ça ? Vous regardez ça de près ?
Alors, on regarde ça, effectivement. Après, c'est vraiment le même sujet que dans l'IoT versus, on parlait de Starlink tout à l'heure. Il y a vraiment un sujet de consommation d'énergie et un sujet de prix. C'est-à-dire que ça, aujourd'hui, ça, c'est le petit module qu'on fait, donc qui fait 2 cm par 3. On sort ça à 15-20 euros maximum pour avoir des objets qui sont 50, quelques dizaines d'euros pour un coût de connectivité qui est l'ordre de quelques euros par mois. Ce que veut faire, évidemment, Iridium avec Snapdragon et Qualcomm, c'est de faire des puces qui permettent de faire de la 4G, si vous voulez, par téléphone. Donc, on est sur des consommations d'énergie qui sont bien supérieures, avec des débits supérieurs et des prix supérieurs. C'est vraiment une segmentation de marché qui est différente. On regarde quand même, évidemment, de près, parce que ces technos nous intéressent. Aujourd'hui, on est quand même dans des prémices de ça, c'est-à-dire que la difficulté d'atteindre le satellite, parce qu'il est quand même loin, hein, 600 km, c'est plus loin qu'une station de base à quelques dizaines de kilomètres, fait que il faut dépenser beaucoup d'énergie pour le faire. Donc, c'est pour ça que vous pouvez envoyer que un message de détresse en étant dans un champ bien,
seul,
etc. La possibilité de faire de l'internet par satellite, par mobile, peut-être que ça viendra. Pour l'instant, on n'y est pas tout à fait encore.
Eh bien voilà, donc bravo pour cette expérimentation à tous les deux. D'un côté, Antonin Hirsch, donc directeur de l'équipe radiofréquence et traitement du signal chez Loft Orbital, et Alexandre Tisserand, président de Kineis. Voilà, deux belles boîtes donc space françaises. Merci.
Merci. Merci François.
Et vous le savez, dans un instant, 21h, on va attaquer notre deuxième partie de Tech & Co. Ça sera le grand débrief de l'actu tech de ce jeudi. Une heure pour balayer tous les sujets tech, et on va parler forcément d'IA et de ChatGPT, qui est l'un de nos sujets préférés actuellement. Vu le hochement de la tête de nos invités, j'ai l'impression que eux aussi.
C'est vrai.
Donc au moins on aura deux auditeurs dans quelques instants. Allez, à tout de suite, vous restez avec nous.
Tech & Co, le débrief de la tech.
Excusez-nous, messieurs, on est à l'antenne. Je vous dérange peut-être ? Tout va bien ? Bonsoir. Vous avez vu, d'un coup, on dit un mot, paf, silence de cathédrale dans ce plateau. Bonsoir, bonsoir. Merci d'être là. On attaque notre deuxième heure de Tech & Co avec le débrief de l'actu tech. Vous savez quoi ? On est tellement passionné par les sujets de tech que même pendant la pub, on en parle. C'est pour ça. Avec ce soir, Asma Mala qui est là. Bonsoir, Asma.
Bonsoir.
Spécialiste des enjeux politiques et géopolitiques de la tech, enseignante à Sciences Po. Une experte des nouvelles technologies. On est ravis de te retrouver pour cette ta première de Tech & Co pour cette année 2023. Voilà.
Pas la dernière, François.
Et pas la dernière, j'espère bien. J'espère bien, tu sais qu'on t'adore, on est tous fans de toi là. Hein. Que ce soit Julien, que ce soit Salim, ou même Frédéric. Ça va, Fred?
Ça va, ouais.
Tout va bien?
Je fais le tri dans les actus.
Alors, Frédéric, qui est venu avec ses notes.
Il parle de tech, mais...
Il parle de tech, mais il a tué un arbre pour préparer donc ce débrief de la Tutech. Julien Videré est avec nous. Salut, Julien.
Salut, François.
Ravi de te revoir depuis le CES de Las Vegas. Julien, qui est directeur de l'innovation chez EDF et qui, bien au-delà de l'énergie, a une vision toujours très intéressante de la tech. Et Salim Assad est avec nous. Salut, Salim.
Salut, François.
Associé chez...
New Fund,
voilà. Bon, alors l'actutech de ce soir, ça va être chaud les amis, parce que bien sûr on va parler de ChatGPT, de tous les sujets à tiroir qui sont liés à cette intelligence artificielle qui, voilà, intéresse tout le monde. Hein. Il y a des articles dans le Parisien, dans
la une du Parisien.
La une du Parisien, il y a même des interviews radio qui sont faites sur de grandes radios avec ChatGPT. Enfin voilà, c'est un sujet de société. Hein, qui impacte l'éducation, enfin énormément, et sans doute des secteurs entiers, des pans de on va dire des secteurs entiers, voilà, du travail. On parlera aussi de Twitter, forcément. Je sais que c'est l'un des sujets préférés d'Asma.
Non, ne m'enfermez plus là-dedans. Me sort par les yeux.
C'est vrai. Ah, on en parle moins en ce moment, justement.
Heureusement,
ouais. Hein, il est un peu
tranquille. Ça fait des vacances.
Enfin, il est un peu tranquille. Bon, enfin, cela dit, il a quelques procès là en
un
ce moment.
Un peu hein. Tranquille, il y a SpaceX, Tesla. Qui tourne.
Voilà, c'est ça. Et puis, voilà, il va aller traîner un petit peu sur les...
Et il a mis de l'argent dans OpenAI qui sort ChatGPT.
En effet.
Il l'avait mis, ouais. On y reviendra, parce qu'il y a toute l'idéologie de Musk sur l'intelligence artificielle qui est très intéressante.
On parlera d'Apple aussi. Apple qui, vous le savez, a vraiment de grandes ambitions en matière de réalité augmentée, qui a sorti des nouveaux produits, là. Voilà, il semblerait qu'Apple veut accélérer sur la maison connectée. On en parlera tout à l'heure, on aura des petits papiers. Mais pour débuter, voilà, l'intelligence artificielle, ça fait des années qu'on en parle, c'était un peu abstrait, et là, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ChatGPT, c'est un peu comme une claque de la puissance de l'intelligence artificielle qui avant était un peu invisible, silencieuse, elle était là sans qu'on la voie, hein, et là, d'un coup, on se dit, ah ouais.
L'exemple, c'était Waze. Personne ne se posait la question, mais Waze, ça reste de l'intelligence artificielle. On avait le meilleur trafic. Mais voilà, on n'y pensait pas. Et puis là, tout d'un coup, on peut poser à une machine, comme dans les films, des questions. Elle va nous répondre. Prépare-moi une recette. Montre-moi une interview entre deux personnes. Ou traduis-moi du code informatique dans un autre langage. Ça marche. Ça marche assez vite, en plus, puisqu'on n'a pas à attendre 3 jours pour la compile et tout ça. Et c'est vrai que c'est assez impressionnant. Et aujourd'hui, ça pose beaucoup de questions, tu l'as dit François, dans le monde de l'éducation. Alors on avait déjà Wikipédia à l'époque où les collégiens ne se sont pas évidemment se sont empressés d'aller sur Wikipédia, l'histoire de Charlemagne et tout ce que l'on veut. Mais voilà, il va falloir apprendre à vivre avec.
Et tout ça.
Il va falloir ce qu'il faut aujourd'hui.
Ça remonte à quelques années hein, pour nous.
Et la réflexion qu'on doit avoir aujourd'hui, puisqu'il y a une version 4 qui va arriver encore plus puissante, ouais. C'est comment ça va nous accompagner aujourd'hui, parce que ça va certainement créer. Supprimer les emplois, supprimer les tâches que l'on fait d'ores et déjà, et comment s'en sortir de tout ça. Donc c'est vraiment cette réflexion qu'on doit avoir. Et même au niveau de l'éducation, il ne s'agit pas de bannir ça et de se dire « je ne ferai pas avec », mais de se dire « comment on va faire avec aujourd'hui ?»
Le pire, c'est de vouloir le bannir alors qu'on n'y arrivera pas.
Et comment s'en servir ? Donc c'est peut-être faire des choses à l'écrit et jouer davantage sur l'oral auprès dans les classes pour amener les enfants à réfléchir un peu plus par rapport à...
On a une enseignante à Sciences Po, on peut lui poser la question, non ?
Ah Asma. Oui,
Non, c'est toi. Hein.
Ah oui, c'était donc ça la pêche.
Parce que l'enseignante à Sciences Po, c'est pas moi. Déjà, j'ai pas la coupe de cheveux et je suis pas, c'est pas possible. Alors, non, ce qu'on voulait dire par là, c'est que on a beaucoup pointé du doigt ces derniers jours des exemples de ChatGPT dans l'éducation avec ces élèves à Lyon qui ont été détectés par un prof un petit peu plus concentré que les autres et qui s'est dit mais c'est quoi toutes ces copies qui s'enchaînent et qui se ressemblent.
Pour l'anecdote, j'ai reçu cet après-midi même un mail de l'établissement scolaire de mon fils m'expliquant qu'ils allaient s'assurer que les copies à venir n'étaient pas générées par ChatGPT.
Est-ce qu'ils ont les outils aujourd'hui?
C'est ça.
Est-ce que vous me permettez?
Ah mais bien sûr, Asma, on te permet tout ce que
est-ce
tu veux.
Est-ce
que vous
me permettez de reprendre un tout petit peu de hauteur sur le contexte dans lequel s'inscrit cette histoire de ChatGPT? Parce que il y a l'outil lui-même, tout ce qu'il permet, les écueils, la nécessité de le réguler, d'en réguler les usages, etc. Il y a aussi la question Alors, la prise de hauteur que je vais tenter, elle est sur deux niveaux. Elle est géopolitique, comme d'habitude, maintenant, et surtout économique. Économique, pourquoi ? Il y a un papier dans l'Express qui est sorti aujourd'hui qui explique un peu le modèle économique dont on ne parle jamais de ces outils-là. Et il se trouve qu'en fait, ça coûte de l'argent. Et chaque requête qui est faite coûte plusieurs cents. Donc, et aujourd'hui, OpenAI qui développe ChatGPT est plutôt acoquiné, et même très acoquiné à Microsoft. Musk en était sorti pour des histoires idéologiques de l'IA forte, demain serait concurrente de l'humanité.
Et Google aussi d'ailleurs, parce que Google est à l'origine.
Exact. Il a toute une idéologie long-termiste. Bon, on y reviendra peut-être un jour sur les idéologies, les nouvelles idéologies de la Silicon Valley. Mais pour revenir donc à Microsoft.
On fera ça en avril, comme ça on aura le temps d'y réfléchir. Non, je referme la parenthèse.
J'ai bugué. Avril.
Non, mais le temps qu'on y réfléchisse, en fait, c'est
mais
ça.
Mais j'ai la réponse. Hein.
C'est bon, déjà
attends. Mais oui.
Garde-en sous le pied.
Alors, attends. Donc je recommence. Donc, Microsoft a déjà annoncé qu'il allait, d'une part, connecter ça à ses API Azure, d'une part. Donc, en termes... Par parenthèse, sur la souveraineté technologique des clouders, en termes de différence de valeur, les clouders français, etc., là, ça va... Ça rajoute un gap supplémentaire, d'une part. Et d'autre part, par rapport à Google, parce qu'ils ont aussi prévu de l'interconnecter à Bing, qui est le fameux moteur de recherche qui ne fonctionne absolument pas, qui est aux alentours de 2-3% de part de marché aux États-Unis.
Donc ça, c'est le moteur de recherche de Microsoft.
De Microsoft. Et donc, le lier tout d'un coup à ChatGPT, par exemple, est une proposition de valeur telle que Google est déjà en train de réfléchir à développer, et sont déjà en train de développer leurs propres outils. Il y a déjà évidemment de l'IA dans les moteurs de recherche. Toutes les interconnexions qu'on fait ne sont pas du tout humaines, évidemment. Mais se joue cette guerre-là ou cette rivalité-là avec la question de la scalabilité du modèle. Parce qu'en expérimentation, c'est génial. En modèle économique, à quelques cents la requête, sachant qu'il y a près de 9 milliards de requêtes par jour sur Google, vous voyez le coût que ça pose. Et puis, la dernière chose, et en remontant encore d'un cran sur les questions de contexte, eh bien, il y a toujours, encore une fois, cette histoire de rivalité USA-Chine. L'IA est au cœur, l'IA et les semi-conducteurs en amont de ça sont au cœur de cette rivalité-là. Et ce qui est en train de se jouer, c'est toujours la question de l'omni-usage ou de la dualité de ces technologies. Des trucs, des outils comme ChatGPT demain peuvent devenir des outils géopolitiques et de confrontation majeure en termes de désinformation, de campagne d'influence, etc. Et surtout, de sophistication des usages militaires de l'IA. Et il se trouve, et je terminerai là, que une étude est sortie il y a une semaine de ça qui explique que la Chine est en tête sur l'IA et en fait écrase littéralement les États-Unis en termes de recherche, de papier de recherche en quantité et en qualité et en citation.
Donc ils ont
mettre le turbo en IA. C'était eux.
Ils ont leur ChatGPT ultra puissant.
Il faudrait vraiment vérifier où est-ce qu'ils en sont en termes d'équivalence. Mais le jeu de Go, là, c'était bien un logiciel chinois à l'époque. Et c'est ça qui avait mis toute la panique américaine autour de ces nouveaux outils IA, hyper performants, etc. Et je terminerai sur Facebook, Meta, qui a annoncé en fin d'année dernière son fameux Cicéron, qui est son outil d'IA, pareil, qui a été... éduqué, entraîné, non pas sur ChatGPT, mais sur quelque chose d'hyper similaire, comme nouvel outil peut-être diplomatique. Donc, il pourrait même disrupter à terme les diplomates eux-mêmes dans l'intelligence humaine artificielle stratégique des relations internationales. Donc, c'est assez dingue.
On évoquera l'enseignement, parce que tu as mis ce sujet de côté, parce que c'est vrai qu'en tant qu'enseignant, est-ce que ça te pose des questions concernant tes élèves, le ChatGPT, etc. Est-ce que c'est un outil? Est-ce que c'est un ennemi? On va en parler dans un instant, mais j'aimerais quand même avoir l'avis de Julien et de Salim sur ce sujet.
Moi, je voudrais juste mettre en valeur un angle dont on parle trop peu, à mon avis, et qui est absolument majeur, c'est que nous, on tombe tous de notre cocotier là, avec ChatGPT, et à raison, hein, c'est extrêmement impressionnant comme on l'utilise. Évidemment que dans les labos de Google, de Microsoft, de Meta, tout ça était connu depuis très longtemps, déjà développé depuis très longtemps, mais caché. Pourquoi ? Parce qu'il y a un vrai problème de réputation avec ces outils d'IA. C'est-à-dire que ça sort des réponses qui sont pas toujours justes, plein de biais, y compris on peut les faire tenir des discours racistes, etc., très complexes. Et donc en fait, OpenAI est un cheval de Troie aujourd'hui pour Microsoft et pour Google. Google a très peur évidemment d'une alliance entre Microsoft pour Bing par exemple et ChatGPT, parce que c'est le nouveau moteur de recherche, hein, c'est le disrupteur potentiel de Google.
C'est le nouveau moteur de recherche.
Enfin, la réalité, c'est que Google a exactement la même technologie aujourd'hui disponible dans ses labos. Simplement, Google aujourd'hui et Microsoft pour l'instant ne peut pas frontalement lancer cette technologie parce qu'elle se ferait tomber tapés dessus par tout le monde sur le thème « ton truc n'est pas précis, ton truc n'est pas fiable, ton truc ne marche pas, ton truc est raciste, etc. » Donc OpenAI, en fait, a eu un rôle majeur, c'est un vrai cheval de Troie pour l'AI de ce type-là, génératif, c'est que ça a ouvert finalement le marché, et tout le monde trouve ça formidable, et maintenant, s'engouffre, donc Nadella qui dit « je mets 10 milliards en plus sur OpenAI », Google qui, dit-on, est en train de fomenter, fourbir ses armes pour lancer son Google augmenté, son Google Search augmenté, etc. Donc ça y est, je veux dire, les vannes sont ouvertes, c'est parti. Mmh. Et à mon avis, c'est surtout ça ce qui a changé avec ChatGPT, c'est que tout d'un coup, c'est devenu acceptable. Cette IA.
Il paraît que c'est un peu la panique chez Google, justement, parce qu'ils n'ont pas vu arriver ChatGPT, et surtout l'interface, qui est enfantine. C'est-à-dire que n'importe qui peut se servir de ce truc-là, et comprendre, en fait, que, voilà, les réponses que nous avons en temps réel sont faites par des machines. Et visiblement, c'est la panique chez Google, qui avait tout ça dans des tiroirs, et qui, en fait, vont se précipiter. En fait, on a reçu une invitation presse de la part de Google pour le 8 février prochain, où ils vont annoncer quelque chose en termes d'intelligence artificielle. Alors, est-ce que ça va être la réponse à ChatGPT? Parce que dans ChatGPT, il y a Transformer, qui est, on va dire, le moteur de ChatGPT, qui est fabriqué par Google.
C'est double code rouge, c'est code rouge Microsoft, et puis c'est code rouge aussi. Quand j'ai tapé le moteur de recherche Google, qu'est-ce qui me ressort? C'est des liens avec de la pub. Là, quand je vais avoir ChatGPT, oui. Elle est où la pub?
Comment monétiser tout ça?
Et tout ça, mais comment je monétise? Alors, comme le disait Aspa, c'est 3 milliards, je sais plus, c'est 3 millions de dollars par jour. Enfin, voilà, il y a ça aussi, ça, on se dit, un flux, si les moteurs de recherche cherche, c'est ça maintenant.
Description.
Où est-ce que je mets les liens de mes clients, quoi?
Alors, on va écouter le point de vue de Salim là-dessus dans un instant.
Salim, exactement.
J'avais envie de dire, non. On va garder le meilleur pour la fin, mais je peux pas dire ça parce que c'est pas possible. Non. Mais Salim, on revient dans un instant.
Petit. Prépare ma réponse. Alors
voilà.
Inspiré de ce que vous avez dit, je vais faire un condensé.
Tu peux vite lancer ChatGPT si tu veux pour avoir un truc. On plaisante, mais on revient dans un instant pour la suite de ce débrief de l'ActuTech ce soir sur BFM Business dans Tech & Co. À tout de suite.
Tech & Co. Le débrief de la tech.
Voilà, le retour du débrief de l'ActuTech ce soir dans Tech & Co sur BFM Business avec Asma Mala, Salim Assad, Julien Villeret, Frédéric Simotel. On parle de ChatGPT, des conséquences que ça peut avoir sur la société, sur évidemment les scénarios d'avenir que ça va engendrer sur notre manière de rechercher des choses sur Internet. Parce que c'est vrai que on l'évoquait il y a un instant, le jour où on pourra connecter un moteur de recherche à ChatGPT ou même un assistant vocal, ça va être quelque chose d'incroyable. Ouais. Salim, ton avis là-dessus?
Perso, je me suis pris une énorme claque quand j'ai découvert ChatGPT. C'est encore une de ces technologies où on se dit ça n'arrivera jamais, ça marchera jamais. Je me rappelle au début quand on utilisait Internet avec le téléphone avec Internet, on se disait ça marche pas, ça bug, etc. Et d'un coup, il y a l'iPhone qui sort et on a un peu la petite illumination. On se dit à partir de maintenant, c'est possible, etc. Et là, c'est vraiment, moi, j'ai vraiment eu cette sensation où tu poses 2-3 questions et tu te dis c'est une réponse qui est hyper convaincante. Maintenant, est-ce que ça va? Et en termes d'adoption aussi, on a vu, nous, on est très sensible en fonds d'investissement dans la rapidité avec laquelle les gens s'adaptent et s'approprient. Donc, les chiffres sont sortis. Je crois que Facebook, ça leur a pris 10 mois pour avoir 1 million d'utilisateurs. Et ChatGPT, je crois que c'est 5 jours.
Ouais.
On est dans des dimensions qui sont, en termes de nouvelles technologies, qui sont très, très brutales. Maintenant, sur toutes les autres questions, monétisation, moi, mon sentiment, c'est que, effectivement, quand on apporte autant de valeur à la monétisation, pour l'instant, c'est pas un sujet. Même s'il y a un sujet de scalabilité, il y a un sujet aussi de performance. Il y a qu'un seul type de puce aujourd'hui qui est capable, donc c'est les Nvidia 100 ou 200, enfin, je connais plus les termes techniques, qui sont capables de processer autant d'informations. Est-ce qu'il va pas y avoir une pénurie s'il continue à avoir autant de requêtes, etc. Et est-ce que fondamentalement c'est un concurrent de Google? Moi, mon sentiment, c'est que pas vraiment. On fait des recherches qui sont... Alors, il y a des recherches Google où on va aller chercher de l'information pour dire est-ce que tu peux m'aider à résoudre tel ou tel problème, ou est-ce que tu as la réponse à cette question. Mais l'essentiel du revenu publicitaire, c'est quand moi, je vais aller sur Google et je vais aller chercher plombier à côté ou est-ce que tu peux m'indiquer tel site internet pour tel ou tel service. Et c'est là où les advertisers vont acheter plus ou moins du Google ou des mots-clés pour se faire apparaître plus ou moins. Donc, moi, mon sentiment, c'est que c'est quand même des métiers qui sont pour l'instant assez différents. On peut combiner les deux. Et aujourd'hui, il commence à y avoir des extenders de navigateurs où je peux utiliser Google et juste à côté, j'ai ma page ChatGPT où j'ai des réponses à la fois d'advertiser et de réponses à mes questions. Donc, j'ai pas le sentiment aujourd'hui qu'il y ait une concurrence frontale. Ça peut être un complément, mais pour moi, la menace de Google n'existe pas encore. Enfin, je la vois pas tout de suite, en tout cas.
C'est vrai, Fred, on parle souvent de ces innovations un peu de rupture qu'on a vécues, nous, depuis quelques années. On peut dire que ChatGPT, c'est la dernière innovation de rupture.
On n'avait pas eu cette sensation.
Moi, je me souviens très bien, le jour où on a découvert ce truc-là, on était au bureau et on s'est pris une claque. On en avait parlé le soir même. On s'est dit, c'est une vraie innovation de rupture, en quelque sorte.
Mais la dernière fois, je pense que c'est quand j'avais vu les premières imprimantes 3D.
Voilà, oui, sans doute.
Quelques années où je voyais les choses prendre forme. J'avais du mal à me dire, mais comment
ça peut. Et des innovations de rupture, on n'en a pas énormément.
Je me dis, mais oui, ça va changer l'industrie, etc. Et là, je trouve que, on se prend une claque parce que ça fait des années qu'on cherche l'intelligence artificielle. Oui, voilà, ça s'est immiscé dans notre vie. Je parlais de Waze tout à l'heure. Enfin, on a tout un tas d'exemples. On comprend quand on regarde des programmes beaucoup plus élaborés. Voilà, ça va rechercher dans l'expérience client, dans l'industrie, dans le nucléaire, tout ça. Mais on n'en voyait pas, ou dans la médecine, on n'en voyait pas les. Enfin, ou alors c'était à portée assez lointaine, et puis nous, simples mortels, on n'en voyait pas tout de suite les atouts. Là, on les voit concrètement. Quoi. Invente-moi une interview d'une prof à Sciences Po sur de la géopolitique et technologie. Il va me faire l'interview.
Le
niveau Qu'est-ce que tu es en train de dire? Je vais disparaître.
Mais moi aussi. Ah non, ça sera plutôt l'intervieweur qui va disparaître.
On va tous disparaître.
Non, mais tout à l'heure, tu disais que ChatGPT va concurrencer Google, mais moi, je pense que ChatGPT concurrence l'humain. Finalement, parce que je sais pas ce que vous en pensez.
La machine sera plus forte que l'homme. La machine tout seul.
Il manque le sentiment, il manque la réflexion. Enfin, il manque quand même quelque chose.
Non, mais concurrencer certaines tâches humaines.
Et certains métiers. Enfin, c'est l'IA génératif. Enfin, au-delà de ChatGPT, qui est très impressionnant, c'est le sujet de l'IA générative. Parce que là, on voit du texte, de l'échange, du dialogue. Enfin, aujourd'hui, les DALI et autres. J'ai oublié le nom de l'autre technologie. Qui fait de l'image.
Deltron.
Il y a DALI.
Il y a DALI et j'ai un trou de mémoire.
Pour moi aussi, on en a parlé.
Je pense que c'est un truc genre DALI 3.
Qui produisent des images sur la base d'un prompt. Dessine-moi François Sorel dans le style de Van Gogh sur un champ de fleurs à moitié nu et j'ai l'image.
Et ça, c'est pas une bonne idée.
C'est peut-être pas une bonne idée, mais en tout cas, c'est super impressionnant.
Ça fait beaucoup rigoler Asma, en tout cas.
En quelques minutes, on arrive à avoir le travail d'un illustrateur, d'un peintre, d'un designer, d'un graphiste, que sais-je. Et ça, évidemment, ça va transformer complètement ces métiers-là. Donc, ça va transformer peut-être les métiers des gens qui écrivent, des gens qui animent, des gens qui font du journalisme, des gens qui font des dessins. Enfin, c'est quand même super disruptif.
Nick Cave a fait l'expérimentation et il en est sorti traumatisé quand même, en disant. Là où Nick Cave a raison, vous voyez qui c'est ? En fait, il expliquait que.
Alors, tu peux expliquer peut-être qui c'est, parce que.
C'est un chanteur. Voilà. Compositeur. Enfin, mec extraordinaire.
Voilà, tous ceux qui nous écoutent.
C'est quelqu'un. J'invite tous ceux qui ne le connaissent pas à mettre Nick Cave, à écouter ce qu'il fait. C'est un peu dark, c'est un peu sombre. Mais justement, c'est exactement ce qu'il expliquait. C'est que donc, il est allé faire cette petite simulation sur ChatGPT. Et qu'il trouvait que globalement, d'un point de vue très rationnel et objectivement, ça fonctionnait. Mais que, en fait, la création artistique, de son point de vue, et il n'a pas tort, venait aussi des expérimentations personnelles, de la douleur, de tout ce qu'en fait on peut vivre dans une vie, dans une existence, de désillusions, de réflexions, etc. Et que ça, il n'en retrouvait pas du tout la sensibilité dans justement ce qui était retranscrit. Il avait fait écrire des paroles de chansons par ChatGPT. Et de ce point de vue-là, il a raison. Cela dit, tout à l'heure, vous me posiez la question, la vraie combinaison, elle n'est pas à Google, Bing, etc. La vraie combinaison, et ce que c'est en train de préparer, c'est le métavers. Nous soyons bien clairs. Et là, ça va être là, tu vas avoir ta rupture technologique, anthropologique, politique, géopolitique à peu près tous les étages.
C'est-à-dire que tu imagines quoi? Qu'on discuterait avec des avatars qui seraient des émanations de ChatGPT.
Tu ne sauras pas qui c'est. Tu ne sauras pas.
Et par ailleurs,
là où vous expliquez très justement qu'aujourd'hui on est encore sur de l'écrit, demain ça va être sur l'oralité, comment tu modères ça, on n'en a pas la moindre idée. Donc on a un énorme problème sur, par ailleurs, comment est-ce qu'on contrôle, entre guillemets, ce qui se fait, et notamment ce qu'on n'arrive déjà pas à faire sur les réseaux sociaux. Ça va prendre une ampleur demain dans le métavers, qui va être assez, qu'il va falloir anticiper d'un point de vue politique très vite et dès tout de suite. Mais tout à l'heure, et je terminerai là-dessus, sur la question de l'éducation.
Oui, tout à fait.
En fait, il y a deux options. C'est soit on se dit, ça casse tout, c'est fini, les enfants vont être débiles, bêtes, les enfants ou les jeunes adultes, plus de capacité à penser par eux-mêmes. Soit, moi c'est ce que je fais déjà avec mes étudiants, soit en fait on change complètement les méthodes pédagogiques. Moi, mes étudiants ne sont pas du tout évalués. Bah, je le dis d'ailleurs, du coup, j'espère que mes directions diverses et variées ne m'écoutent pas ce soir. Ne sont pas du tout évaluées de façon scolaire. Le thèse, antithèse, synthèse, en dissert sur table, c'est mort. Je ne l'ai jamais fait. Donc, c'est tout un tas de formats hyper innovants, des vidéos, des interviews, des enquêtes. Ils ne peuvent pas aller prendre ça sur ChatGPT.
Non, l'oral, simplement, finalement. Est-ce qu'il ne faudrait pas justement remettre l'oral sur le devant ?
L'oral et le point de vue personnel. Moi, je leur demande, typiquement, c'est la façon qu'on peut trouver de contourner ces difficultés-là.
Oui,
c'est ne pas être follower, mais se dire, OK, il y a ce truc.
Mais les devoirs à la maison, c'est mort, on est d'accord.
Non, c'est pas mort. Moi, les vidéos, les enquêtes, c'est forcément, c'est forcément hors classe qu'ils le font. Mm-hmm. Non, il faut surtout pas entrer dans des logiques de flicage ou quoi, parce que là, c'est un peu la fin de tout.
Juste une petite parenthèse, justement, on parlait de voix. Le troisième projet, c'est Whisper, c'est l'outil de reconnaissance vocale.
Midjourney, le concurrent à Wall-E qui permet donc d'insérer des images,
générer
des images, etc.
Mais justement, enfin, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que ce soit pour des professions comme les nôtres, les professions juridiques, ou les élèves, c'est apprendre à faire avec, mais il y a aller assez vite, quoi. Et donc, je pense qu'au niveau de l'éducation nationale, il faut vraiment réfléchir assez vite à la façon de travailler, mais même pour les profs, hein, pour avancer, parce que les élèves, déjà, quand on voit les outils de traduction. Et on voit, moi je trouve que les profs, moi j'ai un fils qui est en 5e, on les fait beaucoup plus travailler sur YouTube, ce genre de choses, alors que nous à notre époque, voilà, on travaillait sur une cassette à la limite, mais on était beaucoup sur l'écrit. Là c'est tout de suite, allez, on va aller travailler la voix, parce que c'est là où il va y avoir beaucoup plus de progrès, parce que l'écriture, ils pourront de toute façon prendre un texte, hop, on passera comme dans un fax, il ressortira de l'autre côté, il sera traduit en anglais. Et les emails, pareil, on dira, tiens, ben, réécris-moi l'email en anglais. Mais voilà, c'est pas peine.
Mais est-ce que demain, on pourra dire, bah, tiens, vu le contexte des échanges des emails, ben, réponds oui poliment à ce mail-là, en fait.
Mais j'ai déjà fait des lettres du Nouvel An, de répondre, de dire, tiens, réponds, et ChatGPT le fait.
Ben, c'est pour ça que tes vœux étaient nuls.
Ah oui, attends,
mais... Je plaisante, parce qu'il m'a même pas souhaité la bonne année, en plus.
Mais voilà,
par SMS, on se fait un bisou. Julien. Non, juste un mot. Alors, évidemment, au-delà de tes compétences dans la tech, dans les télécoms et dans l'énergie, comment, on va dire, des institutions comme EDF ou d'autres, à ton avis, voient arriver ce type d'outils ?
Alors, nous,
est-ce qu'il y a déjà des réflexions sur ce sujet ?
Alors, il y a plus que des réflexions, puisqu'il y a déjà des intégrations qui sont faites avec certains de ces outils, pas ChatGPT pour l'instant, mais on est en train de regarder très précisément sur de la génération, justement, de contenu à utiliser ces outils-là. Il faut bien voir que, et c'est pour boucler avec ce que tu disais tout à l'heure, avec lequel je suis complètement d'accord, le sujet, c'est pas d'en faire une IA artistique. Et aujourd'hui, la création de texte, la création d'images, le business, il n'est pas sur l'artiste. Hein. Le business, il est sur le besoin au quotidien de générer des images pour un site web, pour un journal, d'avoir des textes préécrits pour les clients à qui on envoie un mail automatiquement après un contact au centre client, etc. Donc en fait, ces outils-là, c'est des outils de productivité business. Donc bien sûr qu'on va les intégrer.
Qui existent déjà d'ailleurs. Hein.
Et en partie, ils existent déjà. Aujourd'hui, quand vous appelez un centre d'appel chez les grands donneurs d'ordre, il y a déjà ce qu'on appelle du speech to text, c'est-à-dire que votre voix est enregistrée et convertie en texte écrit, informatique, et derrière, il y a des moteurs d'IA qui travaillent ce texte pour se dire, bah tiens, est-ce que dans l'échange ça s'est bien passé ? Est-ce que on aurait pu répondre ?
C'est pour améliorer l'expérience client.
Exactement, et donc on peut imaginer avec un dialogue à la ChatGPT, aller beaucoup plus loin, et aujourd'hui, ça vous... peut-être comme moi, en tout cas, ça vous insupporte de taper 1, taper 2, taper 4. Mais enfin, demain, si vraiment vous pouvez avoir une conversation avec le robot...
Oui, et qui règle votre problème, finalement, on s'en fout. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est que tu nous disais pendant la pub que tu as vu une vidéo d'un gars qui est arrivé à connecter Siri à ChatGPT.
Exactement, c'était très très amusant. Vous pouvez la trouver sur YouTube. En fait, quelqu'un a bidouillé Siri avec tout un tas de shortcuts, etc., pour le connecter à ChatGPT. Et finalement créer une espèce de démonstration de ce que pourrait être un Siri vraiment intelligent. Et on sait tous que les assistants aujourd'hui sont quand même très limités.
Est-ce que même les chercheurs doivent se poser des questions aujourd'hui, c'est-à-dire des gens qui travaillent sur le speech to text aujourd'hui, est-ce qu'ils ne doivent pas arrêter leur projet et redémarrer sur...
Mais bien évidemment, bien sûr.
Est-ce qu'il ne faut pas mieux aller investir, Microsoft a mis 10 milliards, est-ce qu'il ne faut pas mieux aller mettre de l'argent là et dire, attendez, on est en train de travailler sur des reconnaissances de je ne sais quoi.
Non, mais laissons tomber, connectons-nous... à ChatGPT.
Non, parce que c'est une vraie question. Hein. Il faudrait poser la question aux chercheurs. Est-ce que tout d'un coup...
Oui, et surtout qu'il y a beaucoup de ces technologies qui sont open source maintenant, qui sont accessibles complètement gratuitement et ouvertes.
Et donc, je pense qu'ils le font déjà.
Ils le font de manière...
Ils sont pas...
Mais pour vous dire sur quoi, nous, l'essentiel des dossiers qu'on reçoit aujourd'hui, c'est exactement ça. Donc, je construis une infrastructure au-dessus de ChatGPT et je vais connecter avec des connecteurs. Donc, je t'offre l'outil qui va automatiser ta réponse de mail. Je t'offre l'outil qui va permettre d'avoir des conversations en direct. Et c'est devenu des technologies, ou en tout cas des startups qui ont de moins en moins, on appelle ça la défendabilité technologique, c'est-à-dire qu'avec des technologies qui sont ouvertes aujourd'hui et qui sont accessibles à tous, il n'y a plus d'avantage compétitif à faire de l'IA aujourd'hui. Tout le monde fait de l'IA. Tout le monde sait faire de l'IA parce que c'est ouvert, c'est connecté. Enfin,
on achète ça sur étagère, quasi.
Et tu as besoin de regarder une vidéo sur YouTube de 45 minutes pour savoir répondre à tes emails automatiquement. Donc,
Bon, il est bientôt 21h30. On a fait un bon petit point sur ChatGPT. On va faire un petit break, le temps de retrouver l'info éco. Et on repart avec Asma Mala, Salim Assad, Julien Villeray, Frédéric Simotel. Le débrief de l'actu tech, c'est jusqu'à 22h. À tout de suite.
BFM Business, l'info éco.
21h30 sur BFM Business, à la radio, à la télé. Merci d'être là, bienvenue. L'info éco, c'est avec Sofiane Clouf. Bonsoir Sofiane.
Bonsoir à tous et à la une. Ce soir, on commence par la nouvelle journée de mobilisation déjà fixée. Elle est prévue par les syndicats. Fixée au 31 janvier, les manifestations contre la réforme des retraites ont rassemblé plus d'un million de personnes selon le ministère de l'Intérieur. La CGT en revendique le double ce soir. Le ministre du Travail, Olivier Dussopt, concède une mobilisation importante. Tous les secteurs se sont mobilisés. Un salarié sur deux à la SNCF. Même mobilisation côté EDF. Deux coupures volontaires de courant ont été relevées par Enedis dans l'Essonne et en Haute-Marne. La CGT revendique cette coupure. Des retraites, il en sera bien évidemment question demain dans la grande interview de la matinale. Bruno Le Maire est l'invité de Good Morning Business. On se retrouve à 8h15. L'autre grand titre de l'actualité ce soir, c'est la prise de parole de Christine Lagarde au forum de Davos. La conjoncture économique ne sera pas brillante, mais elle s'annonce meilleure qu'attendue. C'est ce que déclare la présidente de la BCE, qui reste néanmoins déterminée à poursuivre la remontée des taux face à l'inflation. Dans l'actualité des entreprises, cette fois, le tribunal de commerce de Grenoble a placé aujourd'hui Gosport en redressement judiciaire et a constaté son état de cessation de paiement. Deux administrateurs et deux mandataires judiciaires ont été désignés pour une première période d'observation de 6 mois afin de gérer l'entreprise sous le contrôle du parquet. Le dossier Orpea, bientôt entre les mains de la justice. La conciliation entre le propriétaire de maison de retraite et ses créanciers a échoué hier. Il refuse le projet de la Caisse des dépôts qui proposait d'injecter 1,2 milliard d'euros pour en prendre le contrôle. Une procédure de sauvegarde semble donc inévitable. Les investisseurs vont inonder l'Ukraine à la fin de la guerre avec la Russie. C'est la déclaration du patron de BlackRock. Il affirme avoir fait part de son intérêt pour la reconstruction du pays au président ukrainien directement, Volodymyr Zelensky.
Merci beaucoup Sofiane. Il est 21h33 sur BFM Business. Et tout de suite, le retour de Tech & Co. On débrief l'actu-tech ce soir jusqu'à 22h.
Tech & Co. Le débrief de la tech.
Avec Margot Vuillet qui nous a rejoint sur le plateau. Bonsoir Margot.
Bonsoir François.
Et on va parler de Twitter. Ça faisait au moins... Allez, quelques jours, dans Tech & Co en tout cas. Twitter qui connaît des coupes budgétaires drastiques en ce moment. Et pour renflouer les caisses, le réseau social, écoutez bien, a vendu aux enchères une partie du mobilier de ses locaux de San Francisco, puisqu'il n'y a plus personne hein, dans ses locaux, ou quasi personne. Certains objets ont atteint même des sommes mirobolantes, Margot.
Oui, quelques chiffres pour se faire un petit peu une idée. 15 000 $ pour un pot de fleurs, 10 000 $ pour une table géante, une chaise usée à 1 400 $, mais c'est surtout la pièce maîtresse de la vente qui a retenu l'attention, la statue géante du logo de Twitter pour, accrochez-vous bien, 100 000 $. Alors, elle mesure...
Donc c'est le petit oiseau bleu.
Exactement.
C'est ça.
Ouais, mais en version physique, donc 100 000 $.
Ça doit être cool quand même, ça dans le jardin, ça pète.
C'est classe.
C'est le Clénin de jardin.
Ah oui, Et puis c'est plus gros, visiblement.
Exactement. Vous auriez été intéressé.
100 000 $, une pétouille.
Exactement.
100 000 dollars. Mettez-moi en 4, s'il vous plaît, en différentes couleurs. Pardon, Margot. Allez-y.
Donc, elle mesure plus d'un mètre de hauteur. Donc, cette grande vente, elle a été organisée en ligne durant 2 jours, les 17 et 18 janvier. L'occasion pour le réseau social de se séparer donc d'objets devenus inutiles. Car au-delà de ces chiffres assez impressionnants, il faut surtout voir dans cette vente aux enchères le reflet des difficultés que traverse Twitter depuis quelques mois, et notamment depuis le rachat du réseau par Elon Musk. La moitié des effectifs de Twitter a été licenciée ou a démissionné. Donc, dans cette vente, on pouvait principalement trouver du matériel inutilisé, des tables, des chaises ou encore des bureaux. Mais encore plus intéressant, des équipements de cuisine ont également été mis en ligne.
Ça, c'est bien.
Là aussi, exactement. Là aussi, reflet de la politique interne du milliardaire, puisqu'il a supprimé la gratuité des repas aux employés. Une décision qui fait partie des nombreuses coupes dans les avantages des salariés, désormais réduits bien au maximum. La renommée de Twitter a donc fait grimper les prix des enchères très haut. Une aubaine pour l'entreprise qui fait face à de nombreux déboires économiques. Endettée à hauteur de plusieurs millions de dollars, mais aussi à des loyers impayés, des factures non réglées ou encore des actions en justice. Donc reste à voir si ces ventes auront généré suffisamment d'argent pour que Twitter règle ses dettes.
Je ne suis pas sûr, Margot.
Non, je suis assez sûr que non.
Ça va payer peut-être 1% des avocats, je pense, et encore, c'est même pas sûr. Merci beaucoup, Margot. Avant de vous donner la parole sur ce sujet, j'aimerais qu'on écoute un deuxième papier, celui de Simon, car justement, quelques mois après la reprise par Elon Musk, les premières échéances de dettes juste arrivent là, sur ce réseau social, et il risque d'avoir beaucoup de mal à les payer. En attendant, le milliardaire donc cherche toujours à rétablir les comptes de l'entreprise par tous les moyens. On écoute et on regarde le reportage de Simon Tenenbaum et on revient juste après.
La grande braderie se poursuit chez Twitter. Après avoir licencié les 3/4 des effectifs, abandonné une grande partie des locaux, c'est maintenant aux enchères qu'est écoulé le mobilier du siège de San Francisco, des tables, des fauteuils par centaines, des écrans, des machines à café, des décorations aux couleurs de Twitter ont été vendues. Face à la chute de 40% des recettes publicitaires, la quête de nouvelles sources de revenus se poursuit également. Abonnements, badges, ventes d'identifiants, monnaie virtuelle, Elon Musk a besoin de résultats et vite. L'entreprise est comme un avion en chute libre avec les moteurs en feu et les commandes hors service, disait-il fin décembre pour justifier sa conduite agressive. Twitter, dont le rachat a été en partie financé par de la dette, doit en effet rembourser 1,5 milliard de dollars d'intérêts cette année, avec une première échéance dès la fin du mois de janvier. Des négociations avec les créanciers pour restructurer cette dette ont déjà commencé, selon le Financial Times. Mais pour éviter la faillite, Elon Musk pourrait être contraint de remettre trop haut.
Voilà, donc c'est pas la fiesta quand même chez Twitter. Là maintenant, il faut renflouer les caisses parce que Twitter, ça coûte beaucoup d'argent, même s'il y a eu des licenciements, même s'il vend ses machines à café et ses tabourets, ça suffit pas. On débriefe l'actualité de cette fin de semaine avec Asma Mala ce soir, spécialiste des enjeux politiques et géopolitiques de la tech, enseignante à Sciences Po, Salim Assad, associé chez Newfound, Julien Villeray, directeur de l'innovation chez EDF, et Frédéric Simotel, donc, évidemment, journaliste à BFM Business. Donc, Twitter cherche de l'argent. Il faut rappeler quand même, Frédéric, que Elon Musk a toujours un peu de cash devant lui, mais beaucoup moins que l'année dernière. Il a perdu 200 milliards.
Il a perdu 200 milliards. Il y a quand même un emprunt fort de 13 ou 16 milliards là sur le dos pour l'achat de Twitter. Alors après, d'un autre côté, il était temps chez Twitter aussi de faire nettoyer les écuries d'Ogias là un petit peu, parce que c'est vrai, quand on s'adresse à des développeurs, ils disent quand même qu'ils étaient plus de 7000 personnes pour développer une application comme Twitter. Bon, je suis d'accord, il faut des modérateurs, etc. Mais ça faisait quand même beaucoup de monde. On le voit, nous-mêmes, on a interviewé des anciens salariés de Twitter. Alors, oui, ils n'étaient pas vraiment salariés, c'est des consultants qui étaient en CDD, enfin la forme de CDD américaine. Donc on se voit, il devait y avoir des gens un peu dans tous les sens. Donc il était temps de nettoyer tout ça. Maintenant, c'est vrai qu'il faut redonner confiance aux annonceurs pour que eux reviennent. C'est surtout ça le gros travail aujourd'hui d'Elon Musk, au-delà de trouver la stratégie. Mais là, je pense que peu à peu, on va la voir se dessiner.
Julien ?
Je crois que Frédéric a exactement tout dit. Il a acheté 44 milliards, quelque chose qui est estimé à 15 à peu près. Donc il s'est beaucoup endetté pour acheter très cher quelque chose qui a une valeur aujourd'hui nettement inférieure au prix qu'il a payé. Ça, c'est plutôt à son débit. Il a quand même racheté une société qui perdait de l'argent. Donc on oublie de le dire, mais enfin Twitter, ça perdait de l'argent depuis toujours. Donc c'était une société qui avait besoin, effectivement, comme tu le disais, Frédéric, de quelqu'un qui secoue un petit peu tout ça, la structure de coût, le management. Moi, je pense que son erreur majeure, c'est qu'en fait, il n'a pas bien compris qui étaient ses clients.
C'est ça.
Lui, il pensait que ses clients, c'était les gens qui étaient abonnés, hein, avec un gros guillemet, qui étaient connectés à Twitter. Ses clients, c'est les annonceurs, puisque le modèle économique de Twitter, c'était la publicité.
Et il veut transformer ça, en fait.
Il veut transformer ça.
Il veut que ses clients, ce soient les abonnés de Twitter.
Sauf qu'il a commencé par créer une grande insécurité autour de la plateforme, et il y a vraiment quelque chose que les annonceurs détestent le plus au monde, c'est l'insécurité. C'est-à-dire avoir une publicité affichée à côté, par exemple, d'un tweet raciste ou que sais-je, enfin, qui soit en tout cas condamnable. Et donc, les annonceurs sont partis à 40%, hein, puisque les budgets publicitaires ont baissé d'environ 40% chez Twitter. Donc, il a perdu d'un côté le peu de revenus que Twitter arrivait à rentrer dans une société qui perdait déjà de l'argent. Et il a lancé, un peu vite de ce qu'on comprend, un système d'abonnement à 8 dollars ou 11 dollars selon qu'on le prend en direct ou via son iPhone et maintenant son Android, j'ai lu ça.
Oui, parce que ça y est, aujourd'hui, ça c'est arrivé en fait, on peut s'abonner à Twitter Blue depuis Android, c'est tout nouveau.
Dans quelques pays.
Et ça coûte 11 dollars parce que Google, tout comme Apple, prend 30% de commission.
Sauf quand on prend la proportion de gens sur Twitter prêts à payer pour avoir cette petite check de vérification bleue, on le multiplie par 8 ou 11 dollars, on n'arrive jamais au montant qui est préexistait sur la publicité. Donc aujourd'hui, il y a en fait un vrai sujet de business model chez Twitter. Faut pas sous-estimer Musk, ça c'est clair, parce qu'il a prouvé qu'il savait faire plein de choses. Mais je pense qu'il s'est trompé vraiment fondamentalement sur le fait que ses clients, c'était les annonceurs publicitaires.
Ouais. Non, en tant que spécialiste des finances, il s'est vraiment pris le pied dans le tapis avec cette histoire-là, non ?
J'ai l'impression que tout le monde donne les mots de Twitter, entre guillemets, tout le monde a l'impression que c'est de la faute d'Elon Musk, mais t'as raison de dire qu'en fait, au moment où il l'a acheté, Twitter perdait
le contexte
aujourd'hui, et je crois que même au moment de l'acquisition, Twitter perdait entre 2 et 3 millions de dollars par jour. Donc c'était vraiment des pertes conséquentes. Maintenant, je pense qu'il a le mérite d'avoir tapé dans la fourmilière. Je pense que c'était une notoriété publique que, entre guillemets, les développeurs chez Twitter, c'était pas les plus gros, ou en tout cas des gens qui restaient travailler jusqu'à 23h le soir, ou en tout cas qui avaient...
Ce qui n'est pas forcément le modèle, mais enfin, en tout cas...
Enfin, je veux dire,
c'était pas chez Twitter qu'on avait, des vacances illimitées ? Je me demande si notre ami Jack n'avait pas mis ça en place, en fait. Bon, on va refermer la parenthèse, excuse-moi.
Mais vas-y, au moins, il a le mérite d'avoir, je ne sais pas si c'est le mérite ou pas, mais d'avoir de l'ambition, de la restructuration niveau coût. Et maintenant, il va entamer le deuxième étage de la fusée qui est d'aller chercher les revenus. Je ne suis pas sûr, enfin, moi j'ai plutôt confiance dans son plan. Évidemment, il a tapé très fort, les annonceurs ont dû réagir, etc. Mais le nerf de la guerre, c'est quand même les utilisateurs. Enfin, si les utilisateurs sont là, les annonceurs vont finir par revenir, c'est mon sentiment. Et visiblement, de ce que je comprends, il commence à avoir des négociations pour faire revenir un petit peu les annonceurs qui sont partis.
Oui, et puis je pense que l'atout qu'il a, c'est que si Elon Musk prend rendez-vous avec le patron de Coca-Cola, avec le patron de Nike, il aura la porte ouverte et il pourra aller discuter avec eux.
J'ai du mal à croire que Coca-Cola, c'est vite une plateforme qui quand même attire des centaines de millions d'utilisateurs par jour.
Ce qu'on appelle la brand safety dans le monde du marketing, c'est quelque chose, surtout aux États-Unis, c'est une valeur cardinale. C'est-à-dire, encore une fois, ne pas associer sa marque à des contenus haineux, à des contenus dangereux, à des contenus difficiles, c'est vraiment quelque chose de très très fort chez les grands annonceurs, les Coca, les Procter, etc. Donc, rien ne dit qu'il n'arrivera pas à gérer la modération.
À mon avis, c'est tout le travail qu'il doit faire, en plus de réfléchir au futur modèle, c'est d'aller voir tous ses patrons, chez qui, je pense que quand on s'appelle Elon Musk, Coca, Nike et Disney, ils décrochent tout de suite, et puis après, c'est de les convaincre du bien fondé de sa stratégie, et de les écouter, et de voir ce qu'il va pouvoir mettre en place.
En tout cas, je pense que le jour où on peut enterrer Twitter, c'est le jour où il commence à perdre des utilisateurs massivement, ce qui visiblement n'est pas le cas aujourd'hui.
Oui, parce que c'est vrai que la plateforme a toujours cette belle popularité avec, je ne sais pas si vous avez vu aussi, la fin de l'Eldorado des applis tierces, parce que auparavant,
coupé le robinet.
Voilà, on pouvait se connecter via des interfaces qui étaient très agréables d'ailleurs, hein, Twitterific, Twitter Deck, etc. Il y en avait plein, et tous ces logiciels qui faisaient du business sur le dos de Twitter, un peu comme un poisson pilote, hein, qui suit un gros mammifère, c'était parce que les API de Twitter étaient ouvertes. Et là, Elon Musk, sans crier gare, a tout fermé. Ce qui fait que toutes ces applis ne marchent plus, parce que, en fait, Elon Musk veut garder la publicité sur son interface, sur son interface, alors qu'avant, elle pouvait aller ailleurs. Asma. Twitter.
Alors, je suis hyper en phase avec tout ce que vous avez dit sur je ne crois pas qu'il se soit trompé. C'est vrai qu'il y a eu un mismatch dans la vraie cible en l'état du modèle économique, c'est-à-dire la gratuité. Donc en fait, la fausse gratuité. Mais c'est absolument volontaire dans la tête de Musk, parce que moi, c'est ce que je dis toujours, c'est mon petit triptyque là qui essaie de simplifier, de schématiser les choses. On ne peut pas comprendre les modèles économiques aujourd'hui de la Silicon Valley et d'entrepreneurs comme Musk sans comprendre l'aspect idéologique et technologique. Et les trois sont fondamentalement imbriqués. Mmh. Et dans l'idéologie de Musk, il y a une bataille, et ça il faut le dire, anti-woke. Et il part du principe que tous ces annonceurs-là sont woke. Et donc il n'en a absolument rien à faire. En réalité, il est en train de changer le modèle économique. Là où vous avez absolument raison, et je vous suis, et moi-même j'étais une des premières à le dire, c'est qu'en fait il est en train de rationaliser une entreprise qui ne fonctionnait pas, dans un moment de l'histoire où c'est fini l'âge d'or des plateformes et des big tech. On avait fait un numéro là-dessus. Et en fait, la structure de coûts et la conjoncture internationale actuelle fait que ce sont des industries qui sont en train de se normaliser et donc de rationaliser leur structure de coûts. Donc de ce point de vue-là, ce qu'il fait est hyper audible. Simplement, il y a toute l'hystérisation autour qui fait que c'est Musk et donc tout devient hyper binaire. Mais en réalité, ce qu'il fait est hyper rationnel d'un point de vue économique. Maintenant, sa cible, c'est peut-être pas les annonceurs. En effet, il y a la question de la monétisation des utilisateurs actifs, d'où d'ailleurs toute la polémique au moment du pseudo-procès sur les bots, les faux comptes, etc. Mais enfin, passons ça. Une partie de ces pourvoyeurs de fonds demain, ça peut être d'autres États ou des chefs d'État. Il s'entend très très bien avec tout un tas aujourd'hui de nouveaux idéologues très riches. On l'a vu pendant la Coupe du Monde au Qatar. Il est très copain avec Bolsonaro. Donc en réalité, il a la capacité potentielle de lever des fonds, non pas auprès d'annonceurs, mais auprès d'autres types d'acteurs qui poussent par ailleurs un agenda idéologique et politique qui est extrêmement aujourd'hui marqué et assez assumé.
Oui, mais il est surveillé par toutes les institutions, par les réglementations, il ne peut pas faire n'importe quoi là-dessus.
Oui et non, ça dépend. Oui et non.
Il est quand même
assez surveillé. Aux États-Unis, il y a le grand sujet du premier amendement qui fait que tout ce que vous dites, à peu près, au-delà de quelques cas...
Vous avez le droit de le dire, en fait.
Vous avez le droit de le dire. Oui. Donc, de toute façon, ce qu'il fait est légal, à tout point de vue.
Messieurs, dames, petit break, on revient. Dernier sujet, parce que l'heure tourne, déjà 10h moins le quart, rendez-vous compte. Et on a encore un beau sujet sur nos rayons, c'est celui d'Apple, qui remettrait en cause sa stratégie en matière de VR. On en parle dans un instant avec Asma, Salim, Julien et Frédéric. À tout de suite.
Tech & Co, le débrief de la tech.
Le retour du débrief de l'actu tech. On a encore quelques minutes à passer ensemble avec Asma Mala, Salim Assad, Julien Villeray, Frédéric Simotel, messieurs, dames. On suit l'actualité Apple et c'est un gros coup dur pour Apple. Selon Bloomberg, le groupe ne lancera finalement pas, en tout cas pas de sitôt, des lunettes de réalité augmentée. En fait, le défi technique s'avère finalement trop important et même pour Apple, le géant américain n'abandonne pas en revanche ses plans dans la réalité virtuelle. On va en parler dans un instant, mais voici tout de suite le reportage de Simon Tenenbaum qui nous explique tout ça.
Après l'échec des Google Glass, c'est au tour d'Apple de jeter l'éponge dans les lunettes de réalité augmentée. D'abord prévue cette année, puis repoussée en 2025, la sortie des Apple Glass n'est maintenant plus à l'ordre du jour. La technologie n'est tout simplement pas encore au point. Puissance des puces, caméra, batterie, impossible pour l'heure de tout faire tenir dans une simple paire de lunettes légères que l'on pourrait porter et utiliser toute la journée. Apple n'abandonne pas pour autant l'univers de la réalité virtuelle. Le groupe prévoit toujours de lancer, et cela dès cette année, son premier casque de réalité mixte, un produit moins révolutionnaire mais tout de même très attendu, qui ira concurrencer les casques de Meta ou d'HTC. Il sera vendu autour de 3 000 $ et devrait avoir environ 2 heures d'autonomie, avec des applications dans le jeu vidéo, la visioconférence ou les visites virtuelles. Ce sera le premier lancement d'une nouvelle gamme de produits pour Apple depuis l'Apple Watch il y a 7 ans.
Voilà, reportage très clair de Simon Tenenbaum. Attention à ne pas confondre les deux sujets. Hein. On a d'un côté les lunettes de réalité augmentée, des lunettes comme celles que je porte, avec, on peut imaginer en surimpressant des informations qui pourraient me guider, qui pourraient me donner des informations sur Julien Villeray, sur Frédéric Simotel ou sur Asma, etc. C'est ce projet-là que Apple pourrait mettre entre parenthèses, mais il y en a un autre qui, lui, va arriver très vite, c'est ce masque de VR qui serait dans les cartons. Julien.
Ils disent réalité mixte. Hein.
Donc, oui, réalité mixte, il y aurait les deux, aurait en les fait. Deux,
ouais. Julien. En tout cas, oui, effectivement, le masque à la Oculus, pour le dire très très vite, enfin, on ne dit plus Oculus d'ailleurs maintenant, mais oui, on dit Quest. Ça, oui, effectivement, c'est prévu pour 2023, c'est à peu près connu du marché, même si Apple n'a pas communiqué officiellement, et il y aura probablement des innovations à l'intérieur, dont on commence à voir les contours si on lit les rumeurs. Ce qui m'agace un petit peu, j'avoue, quand j'entends Apple abandonne ses lunettes AR, c'est qu'en fait, un, Apple n'a jamais annoncé qu'il allait sortir des lunettes AR, encore moins la date à laquelle il allait les annoncer. Et tous les gens qui travaillent dans la microélectronique savent que les technologies nécessaires pour embarquer là-dedans une batterie qui va durer plusieurs heures, des écrans ou des rétroprojecteurs...
Un processeur de la connectivité...
Enfin, bon, on imagine qu'en gros, c'est le contenu d'un PC ou d'un Mac là-dedans. Tout le monde comprend bien que les technologies aujourd'hui ou même l'année prochaine ne seront pas prêtes. Ouais. Donc, c'est totalement
ridicule. Mark Zuckerberg dit que c'est 5 à 10 ans encore de développement pour arriver à tout miniaturiser.
Exactement. Donc, c'est assez ridicule de dire Apple repousse ou abandonne son projet AR parce qu'il est à peu près certain à 99,99% qu'ils n'ont jamais envisagé de sortir ça l'année prochaine. Après qu'ils rencontrent des difficultés plus importantes que ce qu'ils espéraient, ça, c'est très possible parce que pour connaître des gens qui travaillent directement sur ce sujet-là, la roadmap est vraiment longue avant d'arriver à vraiment sortir quelque chose de disruptif. On en parlait tout à l'heure en la matière.
Qui réagit, Frédéric ?
Moi, mon avis, c'est qu'il cherche le successeur de iPhone, tout simplement. C'est-à-dire qu'on est un jour, alors après, peut-être ce sera miniaturisé à l'extrême, on aura juste une petite puce qu'on se greffera sur les sourcils ou
ça. Neuralink.
Ouais, ou Neuralink. Ah, ça, c'est bien, mais, ça va être cool.
Mais je pense que ce pourquoi Apple, voilà, cherche aussi l'objet un peu ultime, c'est qu'il voit cet écran, mais de la même façon que le smartphone a remplacé les ordinateurs, enfin, a pris pas mal de fonctions qu'on avait autour, ils espèrent que les lunettes vont remplacer plein de choses, à la fois les écrans, à la fois, pourquoi pas l'iPhone. Donc ils veulent avoir un peu l'outil, pas tout de suite l'outil ultime, mais un peu comme quand le premier iPhone est sorti.
Une Apple Watch, mais sur le nez, quoi.
Avec des applications, avec...
La transparence, hein, c'est ça qu'ils cherchent, en fait. Ouais. Ils passent vers des outils. D'abord, on avait le gros PC, après, on a eu le téléphone, après, on a eu la Watch. Et si, un jour, on a les lunettes, c'est vraiment la technologie totalement transparente, c'est-à-dire dans l'objet du quotidien, elle vient s'insérer.
Donc tous les trois, vous auriez des lunettes, grâce à Apple, hein, alors que vous n'en avez pas.
Moi, je suis un peu.
Alors, mais je porte pas toujours.
J'ai été déçu par la pseudo-annonce qui n'en est pas vraiment une parce qu'ils n'avaient pas communiqué. Parce que Apple nous a habitués, dès qu'ils sortent du hardware, on sait que ça a marché, quoi, que ça va être du très solide, que la techno fonctionne. On a quand même très très rarement été déçu par le hardware chez Apple par rapport à ses concurrents. Donc ouais, on avait l'impression.
Alors, si on remonte dans l'histoire avec Frédéric, il te dira que oui, il y a eu des échecs hardware chez Apple, mais ça remonte à 20-25 ans.
Et on sait que c'est, voilà. Les iPhones, ça
se après c'est compliqué, ne serait-ce qu'en batterie, parce qu'ils veulent, être tout un tas de choses, parce qu'ils veulent récupérer à la fois ce que voit la personne, mais aussi les émotions qu'elle ressent pour les faire ressentir, pourquoi pas quand on en verra avec un avatar, dans ce qui veut dire des caméras.
Mais c'est pas prêt, ça, techniquement, ça n'existe pas.
On se balade avec un sac à dos et on a les 4 kilos de batterie derrière, donc je pense que c'est tout ça, mais voilà, pour moi, ils cherchent vraiment à se dire, on veut pas avancer étape par étape, on veut tout de suite frapper un coup fort, dire, écoutez les gars, maintenant, vous nous suivez, un peu comme quand ils sont sortis.
Et ça, c'est pas pour tout de suite.
Ça les conforte même dans la qualité du produit. Quand on se rappelle que Google avait lancé les glaces il y a quasiment 10 ans, donc entre le lancement des Google Glass et le lancement des Apple Glass, il y aura eu 20 ans d'écart.
Après, là, je pense qu'à l'époque, Google, il y avait eu l'erreur qu'avait fait Google, c'est que Google pensait que ça allait être un produit grand public, alors qu'ils auraient ciblé les entreprises tout de suite.
Non, mais c'était pas prêt techniquement.
En plus, ils ont ciblé grand public.
Bah, tu les as testé ces lunettes. C'était vraiment un sketch quand même.
Oui, mais c'était pas pour nous. Ils auraient dû tout de suite sortir dans le monde industriel.
C'était le Theranos de Google, ce truc, quand même. Asma.
Qu'est-ce que ça m'inspire ? En fait, ça reboucle la boucle avec notre premier sujet. Les super IA conversationnelles, tu parlais des émotions, etc. Le métavers, évidemment. Alors, Meta dit métavers, là, on va avoir des réalités mixtes, donc augmentées, virtuelles, peu importe, finalement, le hardware ou le device. Derrière, c'est l'intention qui est derrière et qui compte. Et il faut ne jamais oublier, quand on parle de ces big tech-là et de leur technologie, qu'elles soient dans le hard ou dans le soft derrière, c'est qu'elles sont toujours duales, elles sont omni-usage, et que donc l'autre grand marché en réalité, c'est le marché militaire, c'est le Pentagone. Et ce qui est très intéressant, c'est que tout ça va venir aussi en concurrence avec les HoloLens foireuses.
Oui.
pour l'instant, mais tout foire en ce moment.
Bonjour, monsieur Microsoft.
Mais c'est normal parce qu'on est encore sur les phases de test and learn, on est encore en train de les expérimenter et qu'elles sont en maturation. Elles sont encore dans les labos en train de... Mais c'est bien le sens
des prochaines innovations. Et l'autre sujet très intéressant, si on revient sur un plan un peu plus économique, c'est qu'en fait, et là, rapport à ce qu'on disait sur Musk et Twitter, c'est que ce sont des industries qui sont en train de chercher leur prochain relais de croissance, qui sont en train de se repositionner. Mmh. Et l'autre marché, de Apple qui est très intéressant, dont on parle très très peu, c'est la santé augmentée. Et c'est la santé prédictive, avec des énormes questions derrière. Et donc tout ça est lié, et toutes les big tech sont aujourd'hui en train de se repositionner, de penser leur prochaine promesse, leur prochaine proposition de valeur.
C'est vrai, et on peut imaginer que ces lunettes intégreront des capteurs santé, bien sûr, hein, comme l'Apple Watch. Tout à l'heure, je faisais l'analogie avec l'Apple Watch, mais en fait, c'est une Apple Watch sur le nez avec un système d'affichage hyper perfectionné. Mais tout ça, encore une fois, hein, et c'est Mark Zuckerberg qui le dit, et autant vous dire que lui, s'il y en a bien un qui attend ça, c'est bien lui. Il dit que c'est pas avant 5 à 10 ans, parce que techniquement, technologiquement, on ne sait pas faire. Donc il va falloir attendre que les ingénieurs arrivent à miniaturiser tout ça. Il faudra sans doute attendre de nouvelles mémoires, de nouvelles batteries, de nouvelles technologies de rupture pour imaginer tout ça. C'est pas pour tout de suite.
Et les semi-conducteurs, alors.
Et les semi-conducteurs.
Ça va être un énorme bazar.
Et les applis à développer derrière, qui soient moins consommatrices de processeurs.
Et enfin, Eh bien voilà, ce débrief de l'ActuTech est vite passé. C'était un vrai plaisir que de discuter avec vous de tous ces sujets pendant une heure. Merci à Asma Mala.
Merci.
Merci à Julien Villeray, à Salim Assad et puis à Frédéric Simotel. Ce Tech & Co est terminé. On se retrouve bien sûr ce week-end en best-of. Et puis, dès lundi, on sera là, de retour en direct, 20h, 22h. 2 heures de tech chaque jour sur BFM Business du lundi au jeudi. Portez-vous bien et à très vite.